Hey! Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Très heureux encore une fois que vous soyez là à l'écoute de Pivot avec Pino. Je sais pas si où est-ce que vous m'écoutez. On se questionnait de ça. On est rendu comme à la 9e émission. Où c'est que vous nous écoutez? C'est-tu dans le bain? Y a-t-il du monde qui nous écoute dans le bain? Si vous êtes dans le bain, y a-t-il de la mousse? J'espère qu'il y a de la mousse parce qu'il n'y a pas de mousse. C'est confrontant. On dirait que c'est intimidant de voir des membres de ton corps que tu ne savais pas qui flottaient. C'est d'une tristesse incroyable. Il y a la petite rondelle de bain qui est miroir qui donne un reflet peu favorable. Il y a la réfraction de l'eau qui fait mal. Si tu comprends pas, réfraction de l'eau, ouvre ton livre de physique de secondaire 2, tu vas capoter. Peu importe, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège et le plaisir de recevoir mon troisième membre favori de la soirée étant encore jeune. Et non, c'est pas Olivier Niquet. Mesdames, messieurs, Jean-Sébastien Girard. Bonne écoute! Yes!
Salut, Pino!
Super fâché!
Je commence en colère. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts dans mon bain.
Oui, tu veux?
Ah oui, moi, je fais beaucoup de choses dans mon bain. Et j'ai même une espèce je ne sais pas comment appeler ça, là. C'est des loupies. Et ça me permet de mettre mon doigt. Bon, ça, c'est rien de nouveau. Oui. Mais ça m'empêche de pas l'échapper dans mon bain, puis je peux passer 2 heures à regarder mes stories. Mes stories, je regarde ça
dans le bain.
Voilà.
Ah, bon,
oui,
t'as pas peur de l'accrocher puis tomber live?
Ben, il y a beaucoup de mousse. Il y a beaucoup de mousse. Ça ferait parler de moi, j'imagine. Ah, je pourrais en fait inventer un faux scandale. Je me pars une story live de moi nu, puis je fais semblant que je ne le sais pas. C'est sûr que ça deviendrait viral pour les mauvaises raisons.
Ben oui. On en jase, on en... Hey, mais Jean-Sébastien, tu parlais de ça dans le bain. Je savais pas que tu étais un homme qui prenait des bains. Moi, j'aime ça l'occasion parce que toute ma jeunesse, j'avais pas de douche à la maison. C'était seulement un bain chez les Pinots.
Ouais, ouais.
Mais en vieillissant, je trouve quand même que tu chopes et c'est toujours un peu visqueux. Tu trouves pas ça en sortant du bain? C'est comme si le résidu de savon restait.
Ben non, mais t'sais, évidemment, t'sais, si on se lavait une fois par semaine, je dis pas, mais tu sais, le concept de macérer dans sa graisse, dans sa saleté, je veux dire, tu sais, on prend notre bain, moi, des fois, je le prends 2 fois par jour. Il n'y a pas vraiment d'enjeu de macérer dans ma crasse, tu sais. Il faut choisir son huile aussi. C'est sûr que si tu prends de... Hey, moi, quand j'étais petit, il y avait des huiles avant que ma grand-mère me donnait, ça faisait un cerne autour du bain, tu sortais de là visqueux, mais... Aujourd'hui, il y a une belle gamme de... On dirait que je te fais une démonstration avant. Mais avec un bon bubble bath, tu peux sortir de là avec une peau très sèche. Et puis, il y a vraiment des vertus liées. C'est pas juste dans... J'avais fait une chronique il y a pas longtemps, la soirée est encore jeune, sur douche ou bain. Puis il y a vraiment des vertus psychologiques. Ça sécrète des trucs dans le cerveau qui rendent vraiment heureux. Le bain fait beaucoup de bien. Puis moi, durant la pandémie, j'en prends beaucoup. Des fois, 3h30, j'ai plus d'idées. Je sais plus quoi écrire. Je suis un peu anxieux. Je vais prendre un bain. Je ressors de là complètement renouvelé. Alors, je suggère le bain. Mais généralement, les gars, c'est un gros cliché, mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis gars qui aiment prendre des bains.
Oui. Moi, j'adore prendre des bains, ça me détend, mais je continue avec l'image que je reste un peu visqueux. Mais ma copine a acheté une espèce de mousse qui aide à dormir, ce qui est vraiment étrange. Là, elle a comme un peu d'eucalyptus, puis je pense d'avoine.
Ah oui, ben oui!
On dort tellement bien après, puis je pensais, hey, je pensais jamais, j'ai l'impression qu'on est plus à Marina que d'autres choses en ce moment. Mais hey, la mousse de bain que j'ai découvert, elle est incroyable.
À
mais pour vrai, ça fait.
On achète un Jean Coutu comme ça, l'eucalyptus, puis ce que ça fait à l'odeur, vraiment, c'est très, très, très bon, l'eucalyptus, pour vrai. Il y a 5 ans, j'aurais méprisé cette conversion-là, mais voilà.
Je la méprise encore, mais j'ai pas le choix d'en parler. J'ai fait une intro là-dessus. Mais Jean-Sébastien, ça part, c'est super simple. C'est des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinault, entremêlées. Tu t'amuses, tu réponds si tu peux pas, on passe, il n'y a pas de problème. N'hésite pas à penser à voix haute, les gens aiment bien ça. Puis juste avant de commencer, est-ce que tu te rappelles notre première rencontre, notre lien de connaissance?
Oui. Moi, je pensais que tu t'en souvenais pas. C'était dans une émission à CISM.
CIBL? CIBL! C'était, et oui, les petites anecdotes!
Exactement, à CIBL. Puis, mon impression, assez drôle que tu me parles de ça, mon impression, c'est que tu me méprisais un peu. J'avais l'impression que...
Ça, ça, c'est mon neutre. Mon non-verbal neutre qui fait que j'ai l'air tellement bête.
Ouais. Mais après, tu sais, je t'ai vu, bon, souvent, t'es venu à la soirée, t'es un gars super fin, puis je t'ai vu en spectacle, je t'ai écrit, genre, je te trouve extraordinaire, mais ma première impression n'a pas été super favorable. Tu sais, moi, j'ai toujours un semi-complexe quand je vais dans des émissions avec des humoristes, tu sais, je suis pas tant humoriste, fait que j'ai tout le temps ça, tu sais, bon, c'est mes issues à moi de penser que là, c'était des jeunes humoristes cool, puis tu sais, comme, ah, il vient de Radio-Canada, c'est qui, on connaît pas trop la soirée, puis j'étais pas confortable, ouais, je me disais, ces gens-là me jugent,
bon, voilà. Si tu savais comment c'est tellement l'inverse, c'est que moi, là, cette émission-là, il m'appelait toujours un peu sur le fly, hey, demain, tu viendrais-tu, as-tu une anecdote, puis là, je m'en allais conter une histoire que j'ai oublié mon chat dans le garage. Puis j'arrive là, moi, comme zéro préparé. J'avais probablement oublié que l'émission avait lieu le samedi matin. Je me pointe. Puis là, je vois arriver ton laptop, tac, ta chronique vraiment bien prête.
C'est juste comme... J'avais répété. En fait,
intimidé. Le gars, il est préparé, tu sais. On le reçoit sur l'émission, puis il est mieux préparé que nous, là. Fait que c'est ça. Puis non, effectivement, je connaissais pas la soirée à ce moment-là. Fait, mais c'est aucunement... J'étais plus intimidé que... Mais je comprends, là. Le sentiment que tu as eu.
Il y avait Joe Guérin que je ne connaissais pas du tout et que je me suis mis, c'était l'autre invité, le mécano, oui. Je me suis mis à regarder ensuite son émission sur, à la télé communautaire, là, à Vox. Ouais. Il fait une émission de sketch que j'écoutais souvent la nuit, que j'aime beaucoup aussi. Alors, voilà.
Fait qu'on a parti cette relation-là sur un quiproquo. OK. J'aime beaucoup quand tu dis, hey, après ça, tu es souvent venu. Tu sais combien de fois je suis allé à la soirée?
Une seule fois
en tant que chum de l'autre.
Il y avait cette fois-là aussi où j'ai jamais nommé ton nom. Le Renegade, c'était bon. J'avais parlé d'une médecine douce ou j'avais pas parlé de.
Ah, mon Dieu, non, attends un petit peu. Cette journée-là, pour vrai, c'était l'andropause et j'ai rarement ri comme ça.
L'andropause, c'est pas des vins. Ouais.
J'avais vraiment trippé. Mais tu sais, en plus. C'est la première fois que je t'ai invité. Je ne savais pas que j'arrivais à la toute fin. Il y avait Christian Bégin, il y avait François Bellefeuille, déjà un peu gêné, un peu intimidé, encore une fois. T'sais, on a plus parlé de moi la soirée quand j'étais pas là que quand c'est des décos. De... Tu sais, tu t'es fait ramasser ou tu t'es fait comparer à Grégory Charles. Je me dis, voyons, de quoi, qu'est-ce qui se passe? Ou le running gag avec Louis-José de « Ouais, mais tu sais bien Guillaume Pinault. » Puis là, Louis-José qui est comme mal à l'aise. Puis qui
oui, qui est super élégant, ça. Guillaume Pinault qui est... En fait, c'est que ce qui était drôle, il y avait une gag que je faisais avec Louis-José où je lui prêtais des intentions de trouver juste... Je trouvais ça juste drôle parce que c'était comme entre les deux. Tu sais, mettons, rire de Martin Matt, c'est pas drôle. Rire non, d'un jeune humoriste que personne connaît, qui est poche, c'est comme pas drôle, mais t'étais comme juste sur une ligne, tu sais, comme en train d'exploser. C'était comme neutre. C'était comme, ben voyons, c'est bien gratuit. Je trouvais l'effet comique plutôt drôle. J'avais oublié ce René Gag-là. Puis effectivement, après l'andropause, c'était venu me voir. Tu m'avais dit, hey, c'est super bon. Puis j'étais comme, ah, ben il ne méprise plus. J'étais comme content de cette victoire-là.
C'est là que mon règne de tonne-marde a terminé, dans le fond, là, exactement.
Ouais. Alors, puis quand vraiment... je faisais ces blagues-là avec Grégory, à un moment donné, tu dis, viens donc voir mon show. Puis je suis allé voir ton show. Puis j'ai ri du début à la fin. T'es un conteur. Ça a l'air bête et tout. Tu sais pas pourquoi je te dis ça, mais t'es vraiment un conteur. Puis je me dis, on dirait que les shows d'humour, je les oublie. T'sais, je ris beaucoup sur le coup, puis je les oublie. Ouais. Mais je me souviens de tout. Je me souviens beaucoup de ta famille, ton passage à l'université. On dirait que je me souviens de. Je me souviens beaucoup de ce show-là. Il y a des lignes qui m'ont beaucoup marqué. Ouais.
Mais merci. Puis en plus de ça, quand je t'avais reçu, c'était la Maison de la Culture dans Hochelaga Maisonneuve. J'avais jamais joué à cette place-là. J'ai adoré ça. Pour vrai, aller voir des spectacles-là. Ouais, ça a l'air une petite boîte noire, mais finalement, tu sais, dedans, c'est vraiment agréable. J'avais vraiment trippé. Puis oui, ça, je me rappelle encore que ça a été un bon show. Puis ma première partie, son micro fonctionnait pas quand il est rentré.
Oui. Puis moi, j'étais juste à côté de la console, puis tout le monde avait l'air à capoter un peu. Puis il y avait un tech qui était sur son cellulaire tout le long. Je me disais, peut-être s'il lâchait son cellulaire, le son marcherait mieux, mais on n'est pas là pour ça.
Garde, on les congédiera en temps et lieu quand la pandémie finira. Alors, Sébastien, ça part avec les questions de Bernard.
Oui.
Quel est ton mot préféré?
Mon mot préféré, moi, je dirais que c'est volupté.
Ah oui?
Volupté, parce que je trouve le mot beau, parce que des fois, tu sais, on fait comme amour, parce qu'on trouve ça beau l'amour, mais on ne trouve pas nécessairement le mot beau. Je trouve que volupté, le mot est beau et ça présente quelque chose de beau. Tu sais, le plaisir des sens, la volupté. Je pense que c'est ce qu'on cherche dans la vie. Mais la musicalité de volupté, je trouve ça beau.
Un mot avec pété collé, j'avoue que c'est comme assez rare. Mais utilise Molédon dans une phrase volupté, on dirait que j'aime le mot, mais je ne saurais jamais quand le plugger dans une phrase.
Ben, mon Dieu, je dirais que cette année, on a besoin particulièrement de volupté, on a besoin de plaisir, de sens, on a besoin de... Tu sais, la volupté, on la trouve... En prendre un bain, il y a de la volupté d'en prendre un bain, tu sais. Il y a ce plaisir, il y a la chaleur de l'eau, le bruit de la mousse dans tes oreilles, tu sais, qui fait comme... Tout ça, ouais. C'est de la volupté, c'est le plaisir des sens. C'est une forme d'ivresse. C'est quand tu souhaites de l'ivresse à quelqu'un, c'est comme juste de la, ouais, c'est de la volupté, de la douceur, quelque chose de, qui fait du bien qu'on trouve dans l'alcool, dans la nourriture, dans une poutine. Il y a de la volupté dans la poutine. Voilà.
Hey, ça serait un bon nom. À Banquise, ils devraient en appeler une, la volupté.
La volupté, oui, exactement.
Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais je l'essayerai effectivement. Ah, mon Dieu, ouais. Quel bon terme.
Et là, la sensualité, il y a tout ça là-dedans.
On va complètement à l'opposé, dans le fond. Ton mot préféré, le mot que tu détestes le plus, soit entendre ou prononcer ou lire, y a-t-il un qui te répugne?
J'écoute les nouvelles, le mot députation, je trouve épouvantable ce mot-là, quand on parle des députés, évidemment.
Ouais.
La députation, je le trouve laid de manière sonore. Je trouve que, évidemment, ça évoque pute, qui est un mot que je trouve épouvantable, qu'on n'emploie plus, à peu près plus, surtout pas en tout cas de manière péjorative ou désignée, ce qu'on appelle plus maintenant les travailleurs du sexe ou les escortes, tout ça. Quand j'étais petit, c'était comme une pute ou une putain. Putain, c'est épouvantable ce mot-là. On se promenait dans. Quand j'ai l'âge d'avoir connu le red light, là. Pas en tant que client, mais en tant qu'enfant, je passais au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Puis ma mère, elle me dit, regarde, sur le coin de la rue, c'est des putains, t'imagines-tu? Ma mère, elle m'apprenait l'environnement de ma ville en me disant, ça, c'est des putains. Puis je voyais donc les prostituées et je trouvais ce mot-là épouvantable, puis on ne l'entend plus. Puis j'haïs aussi son utilisation quand on dit que quelqu'un est un peu guidoune. Tu sais, Jean-Philippe Bautier, mettons, il est un peu pute parce qu'il accepte toutes les affaires. J'aime bien dire que c'est guidoune. Ça me plaît. Guidoune, c'est plutôt rigolo. Mais de parler de soi ou des autres comme étant des putes, je trouve ça d'une violence inouïe.
Fait qu'on peut bien employer, c'est une guidoune, Jean-Philippe Vautier, sans problème.
Ah ouais, ça marche. Oui. Jean-Philippe Vautier est une guidoune, mais est une pute.
Ouais, non, ça se dit. Mais j'avoue que c'est un terme qu'on devrait. Hey, j'avais pour vrai jamais entendu députation. On dirait que ce terme-là avait. Si je l'avais entendu, j'aurais comme pensé on cancelle une amputation. Tu vois, j'aurais même pas pensé à.
Mais on ne l'entend pas si souvent, mais on va l'entendre. Donc, Sébastien Beauvais ou quelqu'un va parler à la colline parlementaire. Donc, la députation aujourd'hui. Parce que moi, c'est bien laid ce mot-là, députation.
Ouais, je l'aurais lu en sous-titre, j'aurais pas compris. Mais merci de m'avoir appris un mot que je déteste maintenant également.
Plaisir.
On y va avec une question encore. Mais toujours des questions de Bernard, mais je l'appelle Bernard. Là, je suis rendu proche après 10 podcasts. Je l'appelle plus Monsieur Pivot. Je demande Bernard. Il demandait votre drogue favorite qui a été transformée en votre dépendance favorite. Ouais. En fait, y a-t-il quelque chose dont tu es dépendant et que tu le sais? Là?
Ben, la bouffe. C'est vraiment la drogue, la nourriture. Mon Dieu, puis surtout pendant le confinement, j'ai jamais autant mangé comme bien du monde, c'est pas original, mais j'aime tellement manger, là, c'est... Des fois, tu sais, je suis dans mon salon, là, puis là, je me souviens que j'ai un petit sac au ketchup, là, puis j'ai une réaction physique, oh, mon Dieu, c'est vrai, j'avais oublié, j'ai un petit sac au ketchup, puis je deviens heureux, là, je peux être en dépression, puis je me souviens qu'il y a un petit sac au ketchup, et il n'y a rien qui me rend plus heureux que manger. Quand j'étais Tu sais, j'aimais aller dans les buffets. Là. Pour moi, ça, le concept du buffet, j'ai découvert ça en Virginie quand j'étais petit. C'était pas arrivé au Québec. Puis c'était les All You Can Eat Buffets, ça s'appelait. Puis c'était des rangées de nourriture. Puis dans ma tête, on dirait que ça se pouvait pas. Puis là, je peux y retourner autant que je veux. Là. Je peux me rendre malade à manger. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Puis un buffet, même si, oui, on trouve ça bien vulgaire. Puis comme, pour moi, la Stanza, c'est encore un paradis aujourd'hui, cette abondance de beaux plats. Et oui, j'en parle souvent, je parle de mon poids, je parle plein de régimes que j'ai fait dans ma vie, et je sais que j'en ferai plus jamais, parce que c'est les moments, inversement, où les moments où je suis plus heureux, c'est quand je mange, les moments où je suis plus heureux, c'est quand je mange pas, quand j'essaie de faire des régimes. J'étais malheureux, puis il me reste pas assez de temps à vivre pour être encore malheureux comme ça, tu sais, d'aller me coucher, il est 10h30, je vais aller me coucher, mais j'ai mangé tout ce que j'avais le droit de manger aujourd'hui, mais aller me coucher pour que ça passe plus vite. C'est complètement ridicule. Ouais, mais
est-ce que tu tripes tellement sur la bouffe que tu peux te lever dans la nuit pour manger?
Mon Dieu, c'est drôle que tu me parles de ça parce que je n'ai jamais fait ça, mais j'ai commencé à faire. Et c'est documenté, ça s'appelle de la boulimie nocturne. Jamais j'avais fait ça. Avant, je me souviens, quand j'étais petit, mon père, là, c'était contre, il se faisait cuire un steak la nuit. Là, je trouve que c'est de la maladie mentale. Puis depuis le début du confinement, je me lève, puis je vais me faire une beurrée de Nutella ou je mange des biscuits. Ou, puis on dirait que c'est comme dans un demi... On dirait que c'est comme quand t'es juste un petit peu saoul. Tu sais, tu te réveilles, t'es comme dans un demi-sommeil, t'as pas trop conscience, alors que le jour, je fais comme, t'es-tu niaiseux, t'as pas besoin de ces calories-là. Le matin, je me réveille, j'ai mal au cœur, mais la nuit, je suis comme, ah, on s'en fout, on s'en fout. Puis, je peux me retrouver, là, en train de, assis à côté de ma panse, en train de manger des biscuits, puis c'est effrayant. Puis, évidemment, quand j'ai bu, ça, ben, c'est un classique, mais là, je bois moins, puis parti, il n'y a plus rien. Mais tu sais, quand tu reviens, là, puis, tu décides de faire attention, t'es désinhibé, tu te réveilles le lendemain matin, puis il y a comme, des plastiques de fromage Kraft qui traînent partout dans ton sens. Oh mon Dieu, ok, c'est ça que j'ai fait. C'est bon. Moi, c'est pas tant des bouteilles de.
Tu découvres ton passé.
Ouais, tu découvres. C'est pas des bouteilles de phare qui roulent. Tu sais, comme, oh boy, non, moi, c'est comme, oh mon Dieu, les tranches de fromage. Ben, voyons le restant de macaroni que j'ai fait décongeler à 2 h du matin. Puis, ma drogue, moi, c'est vraiment.
T'es quand même fancy. Ben, je dis fancy, mais tu sais, je veux dire, t'as quand même. C'est un repas. Moi, je me levais la nuit, mais c'est très Joe Louis ou biscuit. Puis, c'était pas rare quand que je vivais chez mes parents que je pouvais me réveiller. Puis, il y avait déjà mon frère dans la cuisine, puis mon père. C'est comme si on avait l'horloge de Steiner. On arrivait à côté au comptoir, mon frère avec son Joe Louis, mon père avec des biscuits, puis moi qui se prends une gorgée de coke, là, tu sais. Sérieusement.
Ça, c'était le repas de nuit familial, là. Votre cinquième, votre quatrième repas.
C'est le meeting calorique de la nuit, là. Ouais, fait que...
Ouais. Ah, mais c'est... Ouais. Puis la malbouffe.
Est-ce que tu commandes beaucoup, tu cuisines?
J'ai commencé à cuisiner depuis un an. J'avais jamais cuisiné de ma vie. J'étais tout le temps au resto. Mais là, par la force des choses, j'ai décidé, parce qu'au début, je voulais faire venir l'épicerie. Ça prenait 3 semaines. Puis là, je me disais, je peux pas faire venir du traiteur. J'ai commencé à faire de la bouffe. Et ça a changé un peu ma vie, tu sais. Ouais. J'aime ça, maintenant, cuisiner des trucs. Et puis, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps un côté de moi qui fait que j'aime mal manger. Tu sais, moi, c'est une autre époque. Ma mère irait en prison aujourd'hui. Mais quand j'étais petit, moi, j'étais... récompensé par de la mauvaise nourriture, tu sais. Donc, j'associais ça au mérite. Tu sais, il y a le New Canada, là, qui est pas loin du registre sur la rue Beaubien, qui existe depuis une cinquantaine d'années. Puis quand j'étais petit, puis que j'avais un bon résultat, ma mère m'amenait manger une poutine, puis hot dog Michigan, tu sais. Pour moi, encore à ce jour, il y a rien de meilleur, tu sais. Tu m'offrirais, là, d'aller manger dans le plus grand restaurant. Pour moi, la poutine avec la sauce très brune du Nouveau Canada. Ouais. Puis 2 hot dogs stimés avec de la sauce à spaghetti, là. Ça, c'est la drogue, là. Je le mange, je suis les yeux fermés, là. Je peux même pas te parler. C'est quasiment, quasiment dérangeant pour quelqu'un devant moi. C'est comme, oh mon Dieu, ça se peut. Ah, que c'est bon, pour manger. Moi, à chaque fois que je mange, j'ai dit 10 fois dans un repas, ah, que c'est bon, manger.
Ça me ferait que tu dis ça parce que c'est générationnel, là. Parce que moi aussi, là, mon père me récompensait quand j'avais une bonne game de hockey. Avec une frite sauce puis une palette de chocolat à l'aréna. Tu sais, c'est qui est la pire chose à manger après un match de hockey, probablement.
En plus, tu t'associes cette bouffe-là comme étant le bout de la merde, tu sais. Encore pour moi, ben, c'est le bout de la merde de manger une poutine, puis c'est la récompense ultime. Puis tu peux pas. Tu peux avoir la leucémie, je pense. Si tu manges une poutine, le temps que tu manges la poutine, la vie est belle. Hein.
Il n'y a plus rien qui existe à part. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ouais. Moi, je suis un fan de malbouffe. Je ne mange pas de fruits et légumes. Fait que, tu sais, ça vient me chercher moi vraiment loin, la malbouffe.
Je ne mange pas de fruits et légumes non plus. Mon Dieu, on a tellement de choses. Tu vois, ça a parti sur le mépris, cette relation-là. Puis après le confinement, là, on ira manger des poutines. Puis,
Je le dis, c'est parce qu'on se reconnaissait trop un dans l'autre. C'est des choses qu'on n'aimait pas chez toi-même qu'on regardait chez l'autre. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre?
Ah mon Dieu, je vais te dire de quoi là, de cheesy, dégueulasse, vraiment très règle ton complexe d'Édipe. Là. Je vais te dire que c'est l'oreille de ma mère.
Alors, c'est parfait.
Pour vrai, parce que je sais que la plupart des enfants, généralement, quand t'es parent, tu dis le rire de mon enfant, c'est quelque chose qui ouais. rend heureux. Moi, j'ai pas d'enfant, je n'aurais pas. Et je suis très près de ma mère, j'en parle beaucoup à la soirée. Puis, moi, une de mes quêtes dans ma vie, je veux que ma mère soit heureuse, tu sais. J'aime beaucoup m'occuper de ma mère, j'aime beaucoup l'amener partout. Tu sais, les gens la connaissent un peu dans le milieu. Assez-vous, la fameuse mère, ça la rend heureuse. Ma mère voulait faire ce métier-là, ce que je fais aujourd'hui. Fait qu'elle vit un peu par procuration. Puis, quand tu ris quand t'es bien, ben ce puis mère elle a un rire très très guttural, très sonore, très particulier. Puis quand tu ris de bon cœur, ma mère c'est une angoissée aussi comme moi, tout ça, fait qu'elle est pas, elle est pas tout le temps dans ce rire-là. Puis quand je l'entends rire, je suis comme ah, elle est heureuse, elle est bien. Puis moi, ça me rend heureux. C'est ça. Le bonheur de ma mère est un.
Je ouais. pense qu'on est vraiment plus pareil que tu crois, là.
C'est vrai,
ma
hein?
mère, mais ma mère, quand c'est son rire de « elle a le piton collé, il n'y a rien de plus beau que ça ».
C'est beau, ça.
Ma mère, elle n'aurait pas voulu faire ça, être dans le milieu, mais elle est tellement investie depuis qu'elle m'a vu à « on va se le dire ». C'est comme si...
Ah ben oui, ça, gars, on le fait le matin, tu sais.
C'est comme si son gars avait réussi « ah, des jokes d'un bar, ton one-man show, non, mais on va se le dire, Radio-Canada, prime time, là, je suis là ». Et là, elle a écrit... elle m'a écrit un message que j'ai envoyé à Sébastien Diaz parce qu'à la fin de l'émission, quand il m'avait invité, il avait dit « Hey, en passant, on va te réinviter, Guillaume, c'est ta première fois. » Puis là, ma mère a dit « Il a dit qu'elle allait te réinviter. Est-ce qu'ils t'ont réinvité? » Et là, j'ai envoyé le message et lui, il l'a envoyé à l'équipe dont on va se le dire, qui m'ont envoyé 7 autres disponibilités que là, j'ai dit oui. Fait que là, je suis retourné. Ma mère est fière, là. C'est, ouais, je comprends. Rendre ses parents heureux, c'est quand même quelque chose. Fait que
ouais. C'est un beau son. C'est un son, puis fait comme là, pendant qu'elle est en train de rire, elle n'est pas angoissée pour d'autres affaires, elle n'est pas inquiète de la pandémie, elle n'est pas inquiète du vaccin, elle est dans ce moment-là, puis je trouve ça beau, ouais.
Puis, hey, sois jamais gêné, tu dis « je pensais être quétaine ». Pour vrai, à date, il n'y a rien qui va te taper Nicolas Ouellet, que son plus beau son, c'est le ronronnement de ses chats. Ça, on dirait que j'ai décroché. À ce moment-là, j'ai fait « Nicolas, j'avais un immense respect, mais c'est là que tu as brisé.
» Je vais couper court à la conversation.
Si on va à l'opposé, son ou bruit que tu détestes?
Pour moi, c'est une évidence. Je voudrais mes acouphènes. Je fais des acouphènes depuis très, très longtemps. Là, tu as fait comme un petit super plein de compassion, mais je les entends presque plus. Je vis super bien avec ça, mais ça a été un drame dans ma vie. C'est arrivé quand j'avais 20 ans. C'est arrivé en une fraction de seconde et c'est jamais reparti. Et ça a été vraiment un drame dans ma vie. Ça a pris au moins 2 ans à ce que... C'est un deuil, le deuil du silence, ah oui. Apprendre à gérer ça. Puis, tu sais, je faisais beaucoup de lectures, j'appelais à des centres d'aide de personnes, puis tout le monde me disait, tu vois, à un moment donné, le cerveau va l'assimiler, puis je me disais, c'est impossible, je croyais pas, puis à un moment donné, sans que tu t'en rendes vraiment compte, à un moment donné, tu parles à quelqu'un, tu fais comme, ah mon Dieu, mais oui, c'est vrai, je fais des acouphènes, mais ce bruit-là fait partie de ton environnement, mais c'est un son qui a failli me rendre fou, littéralement, puis ça, ça mène à des suicides des fois, il y a beaucoup de détresse psychologique liée à ça, donc, ce bruit-là, puis... Quand j'entends des bruits, je ne sais pas, moi, un bruit à la télé ou une machine ou un feedback qui ressemble à ça fois 1000, ouais. c'est vraiment le pire son parce que ça me ramène dans cette détresse-là d'entendre constamment un bruit. Ouais.
Est-ce que c'est grave ou c'est aigu? Parce que j'ai eu beaucoup de compassion parce que je sais exactement c'est quoi, mais est-ce que tu l'entends grave ou aigu ton bruit?
C'est plus aigu. C'est un. Là, maintenant, ma référence, ça commence à être vintage, là, mais quand ça arrivait, je disais, ça ressemble un peu au bruit à une VHS qu'on faisait reculer. Quand il fallait reculer notre film, c'est un peu ça. C'est ce bruit-là. Faudrait que je trouve un équivalent là, pour que ça parle plus aux jeunes. Là, mais,
une Tesla qui recule, mettons. Tu sais, juste... Non, mais parce que. Là, je dis ça parce que c'est sûr que nous, en ostéo, à un moment donné, là, quand tu finis ton cours, tu as l'impression que tu peux sauver la planète au complet. Puis je sais qu'il y avait des traitements ostéopathiques qui venaient en aide à l'acouphène. Je ne sais pas si tu as déjà fait de l'ostéo. Puis
ouais, je l'ai fait pour l'acouphène d'ostéo, ouais.
Okay. Parce que pourquoi j'ai eu tant de compassion, c'est que mon père en fait. Puis, tu sais, en vieillissant, là, encore plus, on s'en rend compte. T'sais, il regarde la télé, il est tellement concentré que si tu y parles, il ne répond pas.
Mon frère
fait de l'acouphène. Mais mon frère est sourd. Fait que la seule affaire qu'il entend, c'est son acouphène.
Ah non, mais ça, c'est la pire affaire. Ouais. Oui. Puis tu sais, souvent, moi, je suis un petit peu sourd d'une certaine... Puis tu sais, il y a la mode où on s'achète des casques et c'est cool parce que ça coupe tout le son autour. Mais moi, c'est la pire affaire que je voudrais. Quand tu vas chez l'audiologue pour passer un test d'audition, puis comme c'est un silence total que tu connais pas. Même pas de bruit chez vous, c'est pas le silence. Mais là, quand tu rentres, ça, pour moi, c'est le pire... de l'année là, quand je passe un test en audiologie parce que je suis dans une vraie cabine et là mon son est comme je voudrais tellement pas être sourd parce que là t'es constamment tu sais bon t'écoutes la télé là on se parle fait que le bruit je l'entends rarement à moi ben, le soir quand je me couche puis quand j'ai pas de problème de sommeil je l'entends une minute puis c'est tout t'sais. Mais la surdité avec l'acouphène ça doit être tout un enjeu, effectivement. Là.
Ouais. C'est dur à expliquer, tu sais, vu que comme pas vraiment entendu, et comme ben je sais pas, mais il y a de quoi qui me fatigue, tu sais. Puis souvent, justement, ben là je parle parce qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi la couffaine, mais c'est que tu entends un bruit. Des fois, c'est comme la carotide interne, que c'est juste, tu entends comme le son du sang passer dans un tuyau.
Ouais.
C'est ça. Fait que, mon Dieu, ben je savais pas, j'ai appris quelque chose sur toi aujourd'hui. On passe à la prochaine question. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil?
Mon premier deuil? Je touche du bois, c'est bizarre. T'sais, j'ai 45 ans, là, j'ai vécu juste un deuil dans ma vie. C'est ma grand-mère. Mon père est mort, puis j'ai pas vraiment vécu de deuil parce que je n'étais pas près du tout de mon père. Zéro. Puis, tu sais, bon, je voyais mon père à sa fête à Noël, puis... Puis je me disais, probablement, quand il va mourir, je vais ressentir de quoi, puis je vais peut-être comprendre de quoi que je ne comprends pas là, puis c'est jamais arrivé, tu sais. Mais ma grand-mère habitait en haut de chez nous. C'était la mère de ma mère, et c'était... elle est morte quand j'avais 18 ans, donc elle était là toute mon enfance, elle me gardait souvent, et c'était... Ma grand-mère a eu juste ma mère dans la vie, c'est ce qui est quand même assez rare à l'époque. Elle avait des problèmes physiques qui fait qu'elle n'a pas pu avoir d'autres enfants. Puis à l'époque, il fallait avoir un garçon. Puis elle n'a pas eu son garçon. Puis quand moi, je suis arrivé, j'étais son seul petit-fils. Et donc, j'étais son adoration. Il y avait enfin un gars dans la famille et elle m'a aimé. Là. On faisait tout ensemble. On sortait, on allait magasiner. Je faisais ce que je voulais avec elle. Je montais des spectacles dans ma chambre. J'ai vraiment descendu en bas. Puis elle descendait. Puis elle se retapait tout le temps. Le même spectacle qui durait 2 heures, qui commençait par tous les cris des SOS. Je faisais du lip-sync sur Marie-Denise Pelletier. Puis tu sais, c'est comme, je faisais en durée, jamais à le montrer. Puis il y avait comme, je faisais vraiment la totale, il y avait un entracte, tu sais, dans mon spectacle pendant 20 minutes. Je restais là, il faut bouger le jeu, puis là, je m'en allais comme dans la salle de bain pendant 20 minutes, attendre pour faire comme l'entracte. Puis elle attendait 20 minutes, je revenais encore là, puis elle applaudissait. Puis c'est le même spectacle qui revenait plusieurs fois par semaine. Elle a été d'une patience, mais extrêmement aimante. C'est quelqu'un que j'ai aimé, qui a fait de l'Alzheimer. Donc, le deuil, quand elle est décédée, ça n'a pas été tant le choc que quand elle a commencé à perdre la mémoire, puis on ne savait pas trop, on pensait que c'était peut-être un certain mélange de médicaments que les médecins avaient dit, puis le jour où on nous a dit « non, c'est cette maladie-là, ça ne reviendra jamais », ça, je me souviens de ce moment-là, puis le classique, tous ceux qui ont connu des gens avec l'Alzheimer, la première fois où elle ne me reconnaissait pas. En fait, elle a reconnu ma mère jusqu'à la fin, parce que ils oublient en ordre décroissant là, ce que de plus récent, ils l'oublient. Puis donc, ma grand-mère qui m'aimait tant, tout ça, ma mère est comme partie chercher un coke à l'hôpital, puis ma grand-mère me parlait pas. Puis je disais, qu'elle fait, mais je sais pas quoi lui dire à lui. Ça a été extrêmement violent, ça. Fait que ça, c'est mon premier et dernier deuil jusqu'à maintenant.
Fait que c'est un deuil que t'as. Mais je veux dire, c'est que ça a commencé avant qu'elle vous quitte, en fait, ce deuil-là.
Ouais, mais c'est ça. Le deuil, c'est vraiment fait avec la. C'est drôle parce que quand c'est là pour moi qu'elle est morte. Elle est morte, je pense, 2-3 ans après. Mais évidemment, là, l'Alzheimer, c'est pas juste la mémoire. Là, à la fin, c'était tellement... C'était tragique. Elle avait oublié comment manger. Il n'y avait plus rien d'humain. Là, on parle de mourir dans la dignité. Il n'y avait plus aucune dignité. Fait que, c'est drôle, quand je la voyais dans le funéraire, c'était comme une autre personne pour moi qui était dans ce cercueil-là. Puis cette femme qui était morte-là, pour moi, c'était un deuil qui était comme déjà fait, qui appartenait à une autre époque. Puis c'était plus ma grand-mère. T'sais. Ouais.
Je comprends. C'est aucunement pour revirer la situation de côté, mais j'ai une amie qui, sa grand-mère faisait de l'Alzheimer aussi, puis tu sais, on allait la visiter, puis un point positif qui était arrivé, elle avait oublié qu'elle fumait. Fait qu'à un moment donné, on lui donne son paquet de cigarettes, puis elle est comme, je fume pas. Ben voyons. On dirait que c'est le seul avantage de l'Alzheimer que j'ai trouvé dans toutes ces années-là. C'est vraiment, elle avait oublié qu'elle fumait. Ça, c'est quelque chose qui est.
Il y a quand même, tu sais, là, bon, de façon sérieuse, mais effectivement, il y a comme l'humour qui est une super, super importante. Il y a des situations qui sont quand même drôles, puis à un moment donné, tu fais comme sur plusieurs années, il faut en rire, parce que sans ça, tu deviens fou, tu sais. Mais il y a des situations quand même qui sont drôles. Tu sais, comme ma grand-mère, bon, rapidement, elle est rentrée à l'hôpital le 15 août, comme dans le CHSLD le 15 août. Oui. Dans sa tête, elle restait stickée sur le 15 août, c'était tout le temps le 15 août. Puis. Oui. Donc, après ça, on lui disait, ben non, regardez, il y a de la neige dehors. Puis là, regardait. Elle fait comment? Ben, je peux pas croire. J'ai 78 ans, j'ai jamais vu ça, de la neige au mois d'août. Elle était tout le temps restée, puis elle dit, je suis malade. Ils sont en train de chanter des chansons de Noël en plein mois d'août. Elle était restée sur le mois d'août. Puis une fois, elle me dit, je dis, qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine? Elle dit, ben, Sœur Angèle, elle est venue me porter du sucre à la crème, tu sais. Puis je lui dis, ben oui, grand-maman, évidemment, tu l'obstines pas, tu sais. Puis, je suis emmené dans son tiroir. Puis Sœur Angèle était venue porter du sucre à la crème, tu sais. Elle était venue faire. Puis j'étais sûr que c'était pas vrai. Puis elle avait signé une petite carte, elle avait fait du bénévolat. Puis ça, elle s'était jamais remis de Sœur Angèle, mais était effectivement allée lui porter du sucre à la crème.
Voilà. Mon Dieu. Quand, j'avais une secrétaire quand j'étais ergothérapeute qui était plus âgée. Puis Emmanuel avait eu une absence. Puis à partir de là, on l'a spotait tout le temps. On était toujours sur nos gardes. Puis je me rappelle que mon patron avait fait, tu sais, Emmanuel, on n'aura pas le choix. Tu sais, tu n'auras plus à être en avant à réception puis accueillir le monde si elle oublie des trucs puis des contrôles sur l'ordinateur. Puis je me rappelle, ben non, on peut pas. Là, c'est tellement un amour. Puis d'arriver un matin, d'ouvrir le frigidaire puis de voir les clés dans le frigidaire.
Oh mon Dieu, ouais,
là, j'ai fait non. Puis là, j'étais mal. Fait que j'avais sorti les clés puis j'étais allé la voir puis j'ai dit, y a-tu quelque chose? T'as-tu oublié de quoi? Nanana. Puis elle était comme, non. Puis je posais tellement, pour me finir par me rendre compte que c'est ma collègue physiothérapeute qui laissait ses clés dans le fridge pour pas oublier son lunch quand elle repartait. Voilà. Fait que tout le long, j'ai créé un scénario pour protéger la secrétaire qui finalement n'a jamais eu d'autre absence. C'est juste qu'on a été un ou deux mois sur « Oh mon Dieu, elle va pas bien, il faut la protéger pour qu'elle se fasse mettre dehors. »
Quelles sont les chances que ce ne soit pas elle qui a fait un geste aussi grand
que ça? Oh. Je me rappelle, mon gars, on avait bien ri à ce moment-là, mais on était comme « Mon Dieu, là, on est ben trop en train de la couver, là, tu sais, je veux dire, on va laisser les choses aller, puis si on voit, mais... » Oui, effectivement. Fait que, des fois, il y a des bons moments là-dedans aussi. Ben, je pense à l'autre question.
Oui.
C'est quoi ton blasphème préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église, ça peut être un blasphème que tu utilises ou que tu as personnalisé. Ou...
Moi, j'aime beaucoup, tu sais, puis je le fais comme un peu pour niaiser à la soirée, mais j'aime beaucoup les blasphèmes très liés à l'enfance un peu, tu sais, moi, je trouve ça drôle, ça pire les Stewie Pipi, ou ben non, j'aime les patois des téléromans de Guy Fournier, là, de quand j'étais petit, Chop Suey, Bob Épine, Chop Suey, je trouve ça drôle, je fais souvent la soirée, pardon, et je me souviens, moi, j'ai l'âge d'être allé à la confesse comme une activité organisée dans le cours d'enseignement religieux à l'école, on apprenait à se confesser, comment on orchestrait ça, puis tu sais, t'as 7 ans, déjà la notion de péché, mais j'avais 7 ans, je suis comme un bon petit gars, je suis comme, mais qu'est-ce que je vais confesser? T'sais? Puis je me souviens, tu sais, comme le matin où j'allais à la confesse, je faisais pas mon lit, je me disais, ben, je vais pouvoir dire que j'ai pas fait mon lit, ça va me faire de quoi dire. Et j'avais dit au prêtre, des fois, ça m'arrive d'être impatient et de sacrer dans ma tête, t'sais, même pas à haute voix, tu sais, que je sacrais dans ma tête. Peut-être qu'il m'avait dit « c'est pas bien, ça offense le Seigneur ». On dirait que tu parles à quelqu'un de 82 ans, tu sais. Il m'avait dit « ça offense le Seigneur ». Il dit « je te suggère au lieu de dire des choses comme bout de ficelle ou sac à papier ». Puis j'avais trouvé ça vraiment niaiseux. Puis depuis ce temps-là, je m'amuse beaucoup à inventer des sacs à papier puis des bouts de ficelle. Mais sinon, oui, comme tout le monde, j'aime bien sacrer. J'aime bien le tabarnak à quatre portes de mon père. Mon père qui est décédé, mais mon père qui sacrait beaucoup. Mon père venait de Saint-Henri, il est élevé avec les frères Dubois qui étaient dans le crime organisé. C'est comme vraiment un milieu super dur. Puis mon père, il sacrait. Puis du côté de ma mère, les Michauds, tu sais, c'est comme. C'est complètement un autre monde. Il n'y a jamais eu un sacre dans l'histoire. Fait que c'était un personnage bien coloré, mon père. Puis souvent, quand il me citait, ça me. Il me disait, ben, tu m'as dit l'autre jour, Jean-Sébastien, voyons, tabarnak, le père. Je suis non, je n'ai jamais dit ça, papa. Il me citait avec des mots tout le temps. Lui, ça crée beaucoup. Puis il disait souvent tabarnak à quatre portes. Je ne sais pas d'où ça venait.
Ouais,
puis j'aime ça encore une fois de temps en temps, un tabarnak à quatre portes. Ouais.
Fait que tu arrêtes de me dire que ton père te prêtait des intentions que tu n'avais pas eues. Quelque chose que tu ne réutilises pas, toi, à l'émission.
Non. Ah non, il citait tout le temps comme un personnage un peu grossier. Là, tu sais, je
comprends, mais tabarnak à quatre portes, j'aime ça.
Avec tabarnak à quatre portes, je trouve ça bien drôle, ça. Ouais.
C'est comme un bouton à quatre trous, mais avec un blasphème tourné. J'adore ça se peut que je l'utilise.
Ah, j'aimerais ça? Ouais.
Ouais.
Fais pas revivre.
Mon père, lui, il est twisté, il disait sacramouille, genre sacramouille de Thomas Dwart. Tu sais, c'est comme, ben voyons.
Sacramouille ou colibine ou des... Ça, j'aime pas ça. Là.
Ouais.
inventer autre chose, mais ouais, faut, ouais.
Parfait.
À moi, là, le monde qui dit je suis en clisse, ça, ça me rend fou, là.
Ah, ouais, 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 qui change juste une. Ouais, ouais. Ouais.
En clisse, tu lisse.
Ouais, clisse, j'ai ça. Colin, capable, oh, mais. Oui, Colin, tabarnouche, torbinouche, ça, là, ça, moi aussi, non, ça m'insulte, en fait, plus que d'autres choses.
Oui, voilà.
On sort un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme ou quelle chose devrait illustrer ce nouveau billet, selon toi?
Sur un billet de banque canadien, québécois, ben, canadien, voyons. Ah, écoute, Luc Dionne, ça n'a aucun rapport, c'est ce qui me pop dans la tête. Comme
ah
ça.
Oui!
Hey, je suis nouvellement fan de District 31, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Je juge même les gens qui avaient le temps pour regarder
ouais.
la série à chaque jour. Et j'ai commencé ça au mois d'octobre, mais de l'émission 1, épisode 1, et j'ai écouté les 6 épisodes en quelques semaines. C'est devenu ma nouvelle religion. Et je suis fasciné que quelqu'un puisse écrire quelque chose d'aussi dense, d'aussi alambiqué, d'aussi complexe, d'aussi intéressant à chaque jour. C'est un génie. C'est vraiment un génie. Ça. Je capote sur cette série-là. Et voilà. Donc, moi, j'ai
eu il y a eu un accident de moto, là, Jean-Sébastien. Il y a eu un accident de moto, là.
Il y a eu un accident de moto, là, mais je suis rendu là, en direct. Là. J'ai tout écouté, là.
OK. Ouais. Moi, tu sais quoi, je le sais parce que Magali est amie de,
ouais.
de Anne-Élisabeth, mais je n'ai jamais écouté une seule émission. Puis quand j'étais de la radio cet été à Rouge, Phil Branch, l'animateur, s'était ouais, mis comme toi à écouter tous les districts, puis revenait à chaque fois en faisant « Mon gars, attends un peu », puis j'ai pas écouté ça, mais il tripait tellement, fait que je vais peut-être les réécouter en rattrapage parce que,
ah, ouais, ouais,
mais sinon, quand j'ai fait mon rattrapage, j'ai écouté les plans B. Que j'avais pas écouté.
Oui, oui,
j'ai
oui.
capoté là-dessus. Fait que,
les deux séries sont super bonnes, là.
Ouais. Fait que, bon, mais
ah non, mais c'est un vortex, là. Tu commences ça, tu n'es plus capable d'arrêter. Tu dis, je vais en écouter. Des fois, là, j'étais jusqu'à 3h, 3h30. Tu peux pas arrêter parce que là, l'émission se termine. Puis là, tu as tout le temps le tease de ce qui s'en vient. Puis le tease est tout le temps hot. Puis il se passe tout le temps de quoi. Ah oui, en confinement, là, c'est salutaire, District 31.
OK, on met Luc Dionne sur quelle valeur de billet?
10$.
OK. Puis est-ce que tu as une quote en dessous? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est réécrit en dessous? Je l'ai rajouté en passant. Là. D'habitude, je ne le demande jamais, mais on ouais, dirait avec Luc Dionne, y a-t-il une phrase culte d'une émission qu'il faudrait vraiment mettre ou un sacre? Y a-t-il des sacres, lui, dans ses émissions?
Non, non. Non, et même ça d'ailleurs, je pense que deux sacres dans 600 épisodes. Puis quand il y a un policier qui sac, il y en a qui fait comme « Ah, Chris, tout le monde fait comme « Franchement, puis le lieutenant... » J'ai l'impression que quand il y a un policier qui sac dans des postes obligés, je pense pas que ça fasse un scandale. Là. Mais je me
personne
ne
tire dans le plafond.
Mais non, là, tu as Hilda Roy, le boss, qui fait comme « Patrick, surveille ton langage, s'il te plaît. » Voyons donc, tu sais, comme un policier, je pense qu'ils doivent sacrer sur un... Non, j'écrirais, moi... tout ce que vous pourrez dire sera et pourra être retenu contre vous. On entend au moins cette route-là trois fois par émission parce que plein d'arrestations et c'est tout le temps. J'aime ça entendre ça a un nom de la personne, je pense que c'est en premier, là, dire ses droits, tout ça. Là,
ouais, les lacs, ouais, c'est les droits. Je ne me rappelle plus c'est quoi, mais. Hey, juste ouais, hier, il y a une police qui est venue ici. Parce que Annelie s'apprête à jouer un nouveau personnage là, qui sera une police. Puis
dans District 31?
Non, je ne peux pas. Ah. Ben, je sais pas si j'ai le droit de dire. Mais sûrement que ça va sortir bientôt. Mais là, on a une veste par balle, on a une ceinture, on a un gun. On a, tu sais, sérieusement, là, c'est. Non, mais c'est malade. Mais c'est pas un vrai, mais c'est comme la même pesanteur. Puis là, je suis super excité. Là, j'ai hâte d'aller essayer ça.
C'est sûr.
Ouais, on a une matraque. Pour vrai, je capotais hier, elle a dit. J'ai tout reçu ça, j'ai laissé ça dans le bureau. Fait que là, c'est juste ici, là, à mes pieds. Là, j'ai vraiment hâte de tout tester. Mais j'espère que ce n'est pas juste pour sa grandeur à elle. Mais bref, billet de banque, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Ouais. On passe à la prochaine question qui est « Quel est le métier que tu aurais détesté faire? »
Hey, écoute, je pense, à part celui que je fais, j'aurais tout détesté. Là. Mais je dirais médecin, étrangement. Là. Ouais. En même temps, c'est peut-être le métier que j'aurais aimé le plus faire et le moins à la fois. C'est-à-dire que je suis fasciné par la médecine. Tu sais, 24-7, puis ces émissions-là, puis les émissions de médecine, puis d'opération, puis de... La médecine me fascine. J'adore lire sur le corps, les maladies, mais je suis un immense hypochondriaque, donc j'aurais pas pu au quotidien être confronté à la maladie. Je serais venu fou. J'aurais pas eu l'équilibre mental de ça. Puis il y a des moments dans mes vies où je fais comme, faut que j'arrête de regarder ce type d'émission-là. Ou à un moment donné, moi, j'écoutais, bon, ça sur beaucoup 24-7, puis à un moment donné, ils ont découvert quelqu'un qui avait un cancer du genou dont j'avais jamais entendu. Puis là, c'était monté là, quasiment jusqu'au cerveau. Puis j'ai fait comme de l'anxiété pendant une semaine. Puis je me suis dit, là, faut que j'arrête d'écouter ça, cette émission-là. Ouais. Donc, ouais, c'est sûr que de... Ou thanatologue, tu sais, comme je suis obsédé par la mort. Je fais comme, mais de voir... Tu sais, moi, j'essaie de j'essaie d'être dans la négation de la mort. Tu sais, j'essaie de m'imaginer que ça n'existe pas puis qu'on est là pour toujours. Je ne peux pas faire un métier qui me le ramène en pleine face, que la mort est inéluctable. Tu sais. Ouais.
Mais à l'opposé, tu aurais aussi vu du monde guérir. Tu sais. C'est pas mauvais.
Oui, c'est sûr. Ça dépend de la branche que tu prends. Tu sais. Ah non, puis j'aurais pas annoncé à un patient, être le type par la France que tu vas dire. T'es juste le messager, mais tu peux détruire quelqu'un. Et je serais pas capable. Je fais comme, oui, ben madame, il y a des métastases. Comme, je pourrais pas ça. Je ferais... Hey, j'y pense et je fais de l'anxiété. À penser que j'aurais annoncé à
quelqu'un. J'avais rencontré avec Alex Fredo, justement. Il faisait des petites anecdotes. Puis à un moment donné, il avait fait un autre, justement, un podcast à Radio-Canada. Puis il m'avait invité pour, moi, mon changement de carrière. Puis on parlait avec un médecin qui travaillait à Sainte-Justine, justement, avec des enfants qui ont la leucémie. Puis je disais, mais vous devez être déchiré à chaque fois, tu sais, quand vous perdez un enfant ou quand vous devez l'annoncer. Puis il m'avait expliqué tellement, genre, sereinement, en faisant, mais c'est pas mon émotion. Je peux pas me prendre la peine qui est aux parents et aux enfants, ça m'appartient pas. Puis j'étais comme, mon Dieu Seigneur,
c'est comme il y a une apprentissage, j'imagine. C'est sûr qu'au début, ça doit, mais il faut que tu te sortes de ça. Sans ça, tu peux pas le faire, tu sais. Je regarde District 31, tu sais, qui font annoncer, qui sonnent à la porte pour aller dire, ben, vous êtes bien la mère de Lucille Trudeau. Ouais. Ben, moi, ça, ouais. Mais effectivement, tu te sors de ça. Puis, ouais.
C'est très, très drabe. Je ne sais pas pourquoi je vais compter cette histoire-là, mais je me rappelle que moi, il y a une amie à ma mère que son conjoint avait eu un accident de voiture, mais c'était un train, puis il avait ramené des morceaux de vêtements en disant, est-ce que c'était ça qu'il portait
aujourd'hui? Ah, mon Dieu, tu me l'as dit.
Les policiers, ils devaient être, moi, c'est ça, complètement déchirés. Mais il y a un documentaire à Télé-Québec là, qui suivent des policiers, justement, là, qu'on écoute.
Je regarde ça.
Ils sont vraiment bons. Bon, hein? C'est vraiment bon. Puis là, je regarde, moi, c'est l'équipe qui cherche, voyons, des pédophiles, là, tu sais, ou du monde qui consomme la pornographie juvénile. Puis là, ils fouillent les ordinateurs, puis ils font, hey, c'est cette vidéo-là qu'on cherchait. Ah, oh, celle-là, on l'a déjà vue. C'est le... Puis là, ils parlent, tu sais, comme, c'est le petit gars dans le bois. C'est comme, ah, mon Dieu, Seigneur. Puis le policier a dit, moi, il faut que je sorte de la vanne, là, je peux plus. Puis je suis comme, ben, je comprends. C'est à chaque jour, tu tapes des vidéos d'enfants.
C'est ça, c'est le job. Il travaille au crime sexuel, là. Fait qu'il passe journée à regarder des vidéos d'enfants. C'est comme, c'est absolument épouvantable. T'as vu, là, moi, ce que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est, ça parle de pédophilie, mais c'est une madame qui habite en face d'une école. C'est comme une madame de 60 ans qui est pédophile, puis qui appelle la police. Ça fait, je suis une madame de 60 ans, j'habite dans une école, j'ai envie d'aller agresser un enfant, venez me chercher. On a comme une image du pédophile, puis du... Mais là, c'est une madame assez âgée qui est trop tentée par les enfants dans le cours d'école, puis qui appelle pour qu'on vienne l'empêcher de commettre ça. C'est fascinant. Ça, c'est le bon mot.
Bravo de vous protéger de vous-même. Deux, peut-être déménager, je veux dire. C'est comme... T'as arrêté de manger du truc, et ça ne doit pas devenir une pâtisserie, là, tu sais. Ben, c'est peut-être vraiment une très mauvaise comparaison. Non,
oui, évidemment. mais on comprend l'image, évidemment. Je veux dire, tu te mets pas proche de ta tentation.
Oui. Si la réincarnation existait, puis que tu avais à mourir, là, je sais que personne meurt, puis dans ta tête, ça se passe. Mais mettons qu'on arrive là, puis que tu avais à te réincarner, en quoi tu aimerais revenir?
Et moi, j'aimerais revenir genre en chat ou... Moi, je serais dû pour une vie où on ne fait rien. T'sais, je vais avoir fait assez d'affaires dans cette vie-là. J'aimerais une vie, tu sais, comme sans ambition, où je passe ma journée sur un divan, je mange, je dors. Après cette vie-là, tu sais, s'il y en a plusieurs, là, je prends... après ça, j'en prendrai une avec plein d'ambition, puis des rêves, puis des grandes réalisations. Mais je serais dû pour une vie là, de...
Une vie sabbatique, dans le fond. Là.
Ah, une vie sabbatique! Ah, c'est beau, c'est même un beau titre de livre, ça. Une vie sabbatique. Ouais, je suis pour une vie sabbatique. Après celle-là, je vais être fatigué. Je suis déjà fatigué, ouais. Tu sais. Fait que, ouais, je serais dû pour ça, dormir puis manger, là, un 7 ans. Tu sais, juste 7-8 tâches, ça. Puis après ça, je serais game. Après ça, repartez-moi, là. Ça... Ouais, mais...
Eh bien, moi, mon chat familial, il a eu 21 ans.
Pour vrai?
Ouais, il a tenu jusqu'à 21 ans quand même. Ce chat-là est resté plus longtemps dans le domicile familial que moi. C'est quand même fou, pareil, là. Ouais. Ok, parfait. Alors là, vu qu'on est dans le sujet, là, je sais que ça t'a pas trippé la mort, mais mettons, après la mort, tu arrives au paradis, puis là, la personne en qui tu crois, que ce soit Dieu ou ta grand-mère ou peu importe, qu'est-ce que tu veux que la personne te dise quand tu arrives aux portes du paradis? Qu'est-ce que tu aimerais entendre?
Je m'excuse. J'aimerais que...
je m'excuse?
Ouais, j'aimerais que Dieu s'excuse d'avoir si souvent rien fait pour nous.
Ah, mon Dieu!
Ouais.
Je m'excuse. Comme tu rentres, puis attends, il y a des petites affaires. Là. Je sais que ma vie vive est
terminée. Ma vie vive, fun, mais si tu veux qu'on continue ça, tu as des excuses à me présenter, gars. Tu vas me dire... Ouais, tu vas me dire pourquoi ça fait un an là, qu'on est en pandémie, qu'on se fait chier, que le monde meurt, puis que toi, t'as rien fait, tu sais, le pape est à genoux à Rome, puis fait « s'il vous plaît, faites de quoi? » Ouais, je m'excuse.
Ah, mais j'adore ça. Pour vrai, je me serais jamais attendu à cette réponse-là. Tu m'as surpris, Jean-Sébastien Gérard.
Ah, super, tant mieux!
Et parlant de moment surprise, on arrive à un moment surprise, c'est-à-dire un de mes bouts préférés. Check bien ça. Cling, la question de ma mère. Parce que Manon Pinot pose une question à chacun de mes invités. Et elle demande, Jean-Sébastien, est-ce qu'on célèbre votre anniversaire ou les fêtes de la Saint-Jean ont toujours préséance?
Ah, c'est super intéressant ça. non, on célèbre ma fête, mais bon, évidemment, c'est pas Noël. C'est pas le même drame que ceux qui sont nés à Noël. Mais la Saint-Jean m'a beaucoup gossé à une certaine époque parce que quand j'étais plus petit, je faisais mon party. Puis d'ailleurs, on dirait que c'est à 45 ans, en te le disant là, que je comprends pas pourquoi on n'a pas juste fait ça un autre week-end. Mais mes amis partaient comme au chalet, c'était un grand week-end, puis il n'y avait personne à ma fête. C'est pourquoi on ne l'a pas fait la fin de semaine avant, je ne sais pas. Mais quand j'étais petit, c'est très pertinent comme question parce que et ça crée vraiment une distorsion. Puis comme ma fête, c'est quelque chose de super important encore aujourd'hui. Et c'est beaucoup de la faute de ma mère, parce que quand j'étais petit, ma mère me faisait croire que les fêtes de la Saint-Jean, c'était pour ma fête à moi que tout ça avait lieu. Fait que ma mère, imagine, fait que ma mère m'a amené au parc Maisonneuve. Fait que, tu sais, le monde avait congé à la Saint-Jean, tout le monde se rassemblait, il y avait des spectacles de musique, il y avait des feux d'artifice, et ma mère me disait que c'était le Québec. Fait que pas juste pour ma fête, imagine l'ego que ça développe, tu sais. Moi, je m'en vais au parc Maisonneuve, je vois des milliers de personnes, puis tout le monde célèbre le fait que j'ai 6 ans.
Est-ce que tu pensais que c'était comme bonne Saint-Jean-Sébastien?
Ah oui, mais même encore aujourd'hui, c'est comme sur Facebook, je suis comme ah, bien trouvé. Mais tout le monde me souhaite bonne Saint-Jean-Sébastien, tu sais. Mais je pense que oui, je pense que je confondais un peu les deux. Puis c'est comme même moi, je n'ai pas connu ça, mais c'est plus vieux, tu sais, quand il y avait les parades de la Saint-Jean-Baptiste, il y avait tout le temps un mouton avec un petit gars frisé, puis tu sais, moi, j'ai les cheveux super raides, puis quand j'étais petit, on disait « Ah, un vrai petit Saint-Jean-Baptiste », je savais même pas à qui ça faisait référence, mais j'ai passé mon enfance à me faire un petit Saint-Jean-Baptiste. Fait que tout ça concordait, tu sais. Et donc, j'ai longtemps cru que l'humanité célébrait mon anniversaire. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, à ma fête, si tu m'oublies, tu m'appelles pas, que t'es proche de moi, tu vas en entendre parler longtemps, tu sais.
T'es insulté. Mais je comprends. As-tu eu des surprises au courant de ta vie? As-tu eu des surprises qui ont fonctionné?
Jamais.
Non.
Jamais. Puis moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis très attentionné. J'aime beaucoup faire des cadeaux. J'aime faire des surprises à ma mère. C'est comme, je me souviens quand t'as eu 45 ans. Tu sais, c'est rien de capoté, 45 ans. J'étais ado. J'avais réservé le deuxième étage d'un Saint-Hubert. J'avais envoyé des faire-part que j'avais fait faire, là, comme des faire-part de mariage. Il y avait des musiciens. J'ai fait une espèce de fête qui se peut pas. Moi, on m'a jamais organisé un surprise. J'ai toujours organisé mes fêtes, appelé mes amis. Il n'y a jamais personne qui m'a organisé un surprise.
Mon Dieu. Ça... Puis là, tu as eu 45 dans pandémie.
En pleine pandémie. Fait que, tu sais, dans ma tête, je me disais peut-être que ma mère devrait, peut-être avec mes amis, reproduire ce que j'ai fait à ses 45. Mais mes 45, j'ai passé dans ma cour. J'ai fait venir du petit poulet avec trois amis, tu sais, parce que...
Oh, mon Dieu. C'est la pandémie. Mais on met le monde là-dessus, là. Le monde qui va entendre ça, là. Tes amis, là, parce que tes amis proches vont tous écouter le podcast. On m'a déjà dit ça à l'oreille. Fait que, mais ah, sérieusement, ouais. Mais encore une fois, tu as dit quelque chose qui font que nos parents, nos mères du moins, sont très... Moi, j'ai toujours voulu une piscine à la maison. Toujours, toujours, toujours. Puis, un moment donné, ma mère a dit, on a une piscine. Puis, c'était la piscine municipale qui a été construite au coin de la rue. Puis, elle m'a fait à croire que c'était la piscine qu'eux avaient fait construire pour moi. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, Dieu, tout le monde a accès. Fait que, j'allais à la piscine municipale, mais tu sais, les loisirs étaient là, puis il y avait plein de monde par rapport, mais toute ma jeunesse, c'est comme, c'est ma piscine, mes parents me l'ont dit, on t'a fait construire une piscine au coin de la rue. Fait
que, tu vois, moi, j'adore ta mère! Ouais, ah ouais, ouais. C'est le même genre d'affaires, puis ça fait juste rendre heureux, tu sais, puis...
Ça rend juste le moment que tu te rends compte que non.
Ouais, c'est ça. Mais c'est comme le Père Noël, tu sais, est-ce que t'as une déception pour le Père Noël, mais ça fait partie d'un folklore de l'enfance qui est plutôt sympathique, tu sais, puis je... Bon, ça a peut-être fait... On fait peut-être ce métier-là pour ça, parce qu'on a besoin de beaucoup d'attention et d'amour. C'est peut-être la faute de nos mères.
Exactement. Moi, ma mère, elle m'en a donné beaucoup, mais il n'empêche que j'aime ça en recevoir encore. Beaucoup d'attention. Mais en tout cas, question rafale personnalisée. Jean-Sébastien, la première, j'avais tellement hâte. Le gala Comédia de la soirée est encore jeune ou votre beau programme?
Ah, admettons, celui qu'il faut que je garde dans mon CV.
Celui que tu choisis, celui que... C'est un ou l'autre dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais garder?
Votre beau programme. Ouais. On s'entend. Je veux garder aucun des deux. Là, et c'est ça la beauté de... Mais je retiens rien de positif à Comédia. Bon, peut-être évidemment une perte de naïveté qui était nécessaire, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, moi, je pensais naïvement, et toi, tu sais de mieux quiconque, tu fais et de la radio et de la scène, tu fais comme, mais moi, j'avais fait que de la radio, et ça faisait des années qu'on écrivait pour la radio, on a nos fans de la soirée, puis moi, je pensais que écrire des jokes, c'était écrire des jokes, tu sais, oui, il y a une partie, que, une chose universelle, mais c'est pas la même affaire, c'est pas le même média, c'est pas le même public, c'est pas la même façon d'aborder les choses. Et de la scène, on n'avait jamais fait, mais on a abordé, nous, la scène, comme on aborde la radio. C'est-à-dire qu'on écrit un texte comme on écrit la radio, on l'a pas rodé, on n'a pas... Puis je me souviens qu'en coulisses, il y avait Jean-Thomas Jobin qui était avant nous, je pense, puis qui nous a dit... Où vous l'avez rodé, on a fait comme qu'est-ce que tu veux dire par où vous l'avez rodé? On ne l'avait jamais rodé, on l'avait répété. Tu sais, comme on n'a rien fait de ce qu'il fallait faire, tu sais. Puis on est arrivé sur scène avec ben, exactement, tu sais, moi si je donnais un cours à l'école de l'humour, là, je présenterais ça, puis je trouve que tout là-dedans, tu sais, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire et ça apprend tout ce qu'il faut faire. Une espèce de prétention de penser que. Puis même, ça nous a pris un certain temps, je pense, à avoir l'humilité de comprendre que c'était vraiment de la merde qu'on avait fait. Au début, c'était comme « Ah mon Dieu, c'est le monde du Québec, ah mon Dieu, blablabla, bla, 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 ils n'ont pas compris, ils sont bien susceptibles, ça prouve juste qu'est-ce qu'on pense. » Alors que, ben, puis c'est ça, il y avait ça, oui, on peut avoir un humour caustique, mais on n'a pas l'humilité, on n'était pas le Vendée-Champs qui peut se permettre de dire n'importe quoi. 80% des gens dans la salle ne savaient pas on était qui, fait c'est sûr qu'on a une humilité auprès de nos fans qui acceptent qu'on dise n'importe qui, mais je veux dire, le grand public ne connaît pas la soirée, on arrive là, c'est qui ces baveux-là de se permettre de nous traiter de mongols, de nous dire des affaires, on ne les connaît pas. Jean-Philippe n'était même pas connu, mais vous êtes qui vous autres? Il n'y a pas de deuxième degré, il n'y a pas d'amour dans ce que vous nous dites, vous ne nous donnez pas un coup de poing d'en face pour ensuite nous prendre dans vos bras, il n'y a rien, c'est juste... fait que tout était mauvais, tout était. Donc, et après ça, donc, étrangement, ce qui est drôle, c'est que Juste pour rire était là pour nous engager à faire notre propre show de la soirée sur scène. Puis on s'est dit qu'il était là. Ils nous ont engagés quand même. Puis après ça, bon, on a fait un spectacle qui s'appelait Prédiction 2017 qui a été mis en scène par Serge Denoncourt. Et ça s'est super bien passé. Les critiques étaient bonnes et tout, mais je pense que. On a été beaucoup nourris par cet échec-là. T'sais. On a su que le scène était autre chose. On s'est entouré d'un metteur en scène, on avait des writers, on a abordé la scène complètement différent avec l'humilité de... C'est pas parce qu'on fait des jokes à la radio puis qu'il y a des gens qui nous trouvent drôles qu'on est drôle partout. Et c'est ça. Alors que votre beau programme, oui, ça a été un échec retentissant, mais je garde ça pour vrai des beaux souvenirs parce que j'ai aimé... j'ai aimé, tu connais Véro, je travaille avec Véro, oui. J'adore cette femme-là, c'était une super belle rencontre. Et j'ai quand même fait un show pas bon qui n'a pas très bien marché, mais j'ai fait quand même. J'étais dans le 42, dans le prime time, j'ai comme réalisé un rêve de petit gars pareil. Puis on dirait que c'est plus après que j'ai vraiment réalisé la portée, parce que quand tu es vraiment dans l'action, on dirait que tu le réalises pas trop parce que le show finit, tu es en train d'en préparer un autre. Puis moi, si je faisais la soirée en même temps, je faisais le show, j'étais tellement occupé que j'étais pas vraiment dans l'analyse. J'étais juste dans le tourbillon de « j'ai la soirée ». Tu sais, j'étais comme dans une bulle vraiment tripante. Tu sais, on faisait le show au Saint-Denis. Puis là, il y avait comme un char qui venait me chercher à la fin du show pour que j'aille faire votre beau programme. Puis après ça, j'arrivais, j'écrivais les textes parce que le lendemain, on préparait la soirée. J'étais dans un bouillonnement dans ma vie débile. Puis je ne le réalisais pas trop. Puis j'étais en direct avec le stress du direct que moi, j'aimais. J'étais avec Véro. Puis je me disais, hey, je fais quand même un show avec Véro. Puis il y avait. Tu sais, puis oui, c'était pas bon, mais il y avait des bonnes affaires là-dedans. Tu sais, il y avait des numéros.
Moi, j'aimais ça. En vrai, je les pose en question pour. À la blague, on fait avoir vos programmes, ça a été retiré. Mais moi, j'aimais ça. Puis t'étais bon, je te trouvais bon là-dedans.
Heureusement. Ben, merci. Mais tu sais, oui, je trouve que la critique était plus dure que ce que c'était. Puis. Tu sais, il y avait 600 000 auditeurs, là, c'est un échec pour Véro, mais il y a 600 000 personnes qui écoutent un show, c'est quand même pas de la merde, tu sais. Puis il y a eu des moments touchants, il y avait des sketchs, il y avait des affaires. Moi, d'assister aux répétitions, d'être témoin de comment une pro comme Véro, comment une équipe comme ça bâtisse un show, d'avoir eu accès à ça, je trouve que c'est une expérience extraordinaire. C'est sûr que, bon, quand on en parle tout le temps dans ce côté-là, puis là, j'écoute la série Entre l'ombre et la lumière de Véro, tu sais, puis là, elle parle de sa carrière qui était parfaite jusqu'à ce que, bang, elle frappe un mur, puis là, bang, tu vois ma face arriver dans le documentaire. C'est sûr qu'à chaque fois, ça fait comme « ah! » Puis, en fait, j'ai surtout un regret d'un rendez-vous manqué. Tu sais, des fois, je fais « hey, ça aurait tellement pu être quelque chose de le fun. » Tu sais, puis je me souviens quand Véro m'a appelé, tu sais, j'avais jamais fait vraiment de télé, elle m'appelle. Je connais pas Véro, on s'est jamais parlé. Elle fait comme « allô, c'est Véro ». Puis c'était pas « veux-tu qu'on se parle de... » On a des auditions à faire, des tables d'essai. « Je fais un nouveau show, veux-tu être mon sidekick ?» Elle me lance comme ça. Je me souviens, le soir, j'ai pas été capable de dormir, mais comme un enfant, j'étais dans mon lit, je suis trop heureux. Je pourrais pas trouver le sommeil parce que je suis trop heureux. T'sais. Puis là, je m'imaginais, ben, admettons que ça a comme le succès des enfants de la télé, puis que je trouve ma place comme Antoine Bertrand l'a trouvé, puis que je suis capable de... Puis que c'est tout ça, après, ma carrière va flyer. Fait que, tu sais, il y a eu le regret. Il m'a fait des bye-bye après, puis comme je suis parti. Puis après ça, ben il y a les 13 semaines, c'est fini, il n'y a plus rien. Puis on s'entend qu'après, les producteurs télé ne sont pas garochés pour me donner un autre show. Fait qu'il y a comme cette espèce de bulle d'excitation, le show, là, puis après ça, il y a comme cet arrêt-là. Fait que ça a été une année d'émotions très, très opposées, mais il y a beaucoup de positifs dans l'aventure de votre beau programme quand même, puis je la regrette pas. Mais je ne referai jamais comédien, évidemment.
mais je veux juste dire, ben justement, tu disais « je ne referai jamais comédien », mais tu sais, mettons, quand tu es humoriste, puis que tu es seul, puis que tu te plantes, moi, je me disais au moins, hey, sont les gars ensemble. Mais ce numéro-là finissait avec toi seul. C'est ça qui était fou.
C'est ça. Il y a deux choses là-dedans. Il y a effectivement, votre beau programme et Comédia, c'est des échecs de groupe. C'est-à-dire que, pas que je m'en lave les mains, mais je prends une partie de la responsabilité. Puis ça fait quand même toute la différence. Fait que Comédia, ça ne m'a jamais empêché de dormir. Je fais comme, hey, c'est poche, mais je fais, on est quatre. Puis on est quatre à porter ça, on est quatre à pas avoir levé les bons flags. Fait que, tu sais, moi, j'ai pris 25% de cet échec-là et pas 100%. Fait qu'on est 25% à avoir fait des lignes pas si bonnes, à pas avoir compris, à pas avoir l'humilité qu'il fallait, à pas comprendre que la radio, la télé, c'est pas la même affaire. C'est un métier faire de la scène, que c'est un langage, que c'est une façon de... Puis que, tu sais, c'est pas pour rien que les humoristes font des bars, puis qu'ils essayent des publics, puis qu'ils comprennent des... On l'a partagé, votre gamme aussi. Mais Oui, effectivement, je finissais le numéro et je parlais à la soirée il n'y a pas longtemps. Jean-Philippe est allé aux enfants de la télé et ils ont montré évidemment ce numéro-là. Mais l'extrait qu'ils ont montré pour roaster Jean-Philippe, c'est moi qui chante seul à la fin, tu sais. Fait que je fais comme, voyons, c'est toi, les enfants de la télé à toi. Puis là, c'est encore moi qu'on monte. Et tu sais, comme, je sais pas, il y avait 2000 personnes. Je fais comme, mais là, 5 ans plus tard, on le remonte à 600 000 auditeurs qui font comme, OK, ben c'était Jean-Sébastien qui chantait une chanson où là, j'étais tellement nerveux, ma voix avait pété, la chanson était mauvaise. Puis là, tu sais, on a l'impression qu'on était à l'époque de Molière. Là. Les gens nous criaient des insultes vraiment, mais tu sais, pas comme à la soirée parce que ah, c'est sympathique, bouh.
Oh,
je sais pas quand est-ce qu'on a vécu ça dans l'époque moderne où des gens faisaient, allez-vous-en, trou de cul. Parce que, c'est quelque chose, là, c'est comme. T'es sur scène, je chante ma toune. Les gars sont déjà rendus dans les coulisses. Je suis en train de chanter ma toune, puis j'entends « Bouh, va-t'en! » Hey, c'est violent vivre ça dans une vie, là.
Oh mon Dieu, c'est drôlement, je vais dire chapeau. Je vais dire, c'est quand même c'est spécial. Je ne sais jamais le vivre, mais tu sais, je me rappelle l'avoir écouté dans le passé, puis juste de que toi, t'as tenu jusqu'au bout, tu sais. C'est ça qui est fou. Les gars, t'es rentré à se démaquiller dans la loge pendant que tu continues.
Alors que la toune se voulait comme troisième degré, c'est de la merde. Mais là, je fais comme, on n'a rien installé qui va permettre au public de prendre ça comme étant. Puis en plus, c'était beaucoup basé sur le fait qu'à la soirée, je chante tout le temps, je chante pas trop bien, mais j'ai quand même monté avec ça. Mais tous ces codes-là, c'est des codes que le public ne possédait pas parce qu'il ne nous connaissait pas. Fait que ça finit juste, en plus d'être quatre inconnus, vient de nous dire qu'on est de la merde. Il y a un gars qui fait une chanson avec. Il chante mal, on comprend pas pourquoi. C'est comme. Il y a rien. Tu sais, on a donné aucune clé au public pour apprécier quoi que ce soit là-dedans, tu sais. Fait que c'est juste un inconnu cave qui chante une chanson de merde. Allez-vous-en, là. Vraiment, allez-vous-en de payer pour être ici ce soir, là.
Ouais. OK, je vais. C'est la rafale, la moins rafale que j'ai
vue. C'est la rafale, OK.
C'est pas grave, hey, aucun problème.
Okay.
Jean-Philippe ou Olivier?
Ah! Intéressant. Je te dis ce qui me vient en tête. Professionnellement, Olivier. Olivier, c'est un gars extrêmement intelligent. C'est bon, il y a tout le temps le running gag de bon, faire une carrière en faisant écouter des clips, là, mais. Il s'est mis à faire des nouveaux segments cette année, dont une espèce de biais d'indignation où c'est comme au troisième degré, où il devient un peu un animateur de la Radio de Québec, mais comme en se moquant d'eux en même temps aussi. Puis c'est comme une espèce de number. Puis je fais comme, mais ces textes-là devraient être publiés. C'est un gars qui a une intelligence, une personnalité très atypique aussi. Ce qui fait, c'est quand même assez unique. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail d'Olivier. Évidemment, là, faut que je choisisse. Donc, j'ai répondu, mais pour plein d'autres raisons, je choisirais Jean-Philippe. Mais je dirais pas
pour
ces
raisons-là.
Pour la course
à pied, je choisirais Jean-Philippe.
Parfait. Pour aller en voyage, j'irais avec Jean-Philippe. T'sais. J'ai plus de fun avec Jean-Philippe, évidemment. Mais mettons, là, pour l'admiration d'un talent qui est peut-être plus loin de moi, c'est l'écriture d'Olivier. Voilà.
Parfait. Et Michel pardon, Richard. Ou René Martel?
Ah, Michel Richard.
Ah, regarde!
Michel Richard. Ben oui. Michel Richard pour le personnage. Il n'y a aucune des deux chanteuses que... Ah, mon Dieu. Ah oui, Michel... Non, c'est vrai que je ne me prête pas au jeu si je défends l'autre. Fait que je réponds, Michel Richard, c'est pas une bonne chanteuse, c'est pas une bonne comédienne. Michel Richard n'a pas vraiment de talent. Mais c'est vrai, je peux pas faire, j'aime la musique de Michel Richard, mais je pense que c'est une fille qui a eu l'intelligence, okay, deux phrases, parce que qui a eu l'intelligence de comprendre qu'elle était limitée dans ses talents-là, mais qui a créé un personnage de star qu'on n'a pas au Québec et qui fait qu'elle existe encore et qu'elle fascine tout le temps.
J'adore ta vision de la chose. la prochaine va être, je pense que... Jean-Sébastien, votre mère ou votre carrière?
Ma mère.
Yes.
Hey, c'est long, je me pose des fois cette question-là. Tu sais, des fois, c'est comme c'est les deux pôles de ma vie. Tu sais, puis, tu sais, si on me disait, mettons, des fois, j'imagine des scénarios, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais des fois, je fais comme. Ouais. Mettons, quelqu'un dit ta mère, elle meurt là, on lui donne 5 ans de plus, mais toi, tu t'en vas travailler à la Banque nationale, mettons. Tu sais, je me fais des scénarios comme ça. Je vais travailler à la Banque nationale pour avoir 50 plus de maman.
Parfait. Mais là, il n'y a pas de durée de vie là, de mère ou rien. Là. Non, c'est vraiment juste maman, votre carrière. Okay. France Castel ou Jeannette Bertrand?
Ah, Jeannette Bertrand. Hey, ça, c'est très dur ce que France Castel. Non, OK. Jeannette Bertrand. Je m'engage à plus parler de la personne que j'élimine. Alors, Jeannette Bertrand, pour des raisons évidentes, c'est moi, je suis de la génération L'amour avec un grand A. Donc, j'ai appris la vie dans L'amour avec un grand A. J'ai appris. Hey, j'ai l'impression que si je pense à la schizophrénie, à la boulimie, à l'homosexualité, j'ai l'impression que je pense à des tabous d'une certaine époque ou encore aujourd'hui. Pour moi, c'est une image de l'amour avec un grand A qui se superpose. Jeannette Bertrand m'a sauvé la vie.
Je savais, tu sais, le côté hypochondriaque. Ouais. Là, je ne sais pas si cette question-là va te... Mais vous savez quand vous mourrez ou vous savez comment vous mourrez?
Arc! Ah, oh, mon Dieu! Comment?
Ah, oui!
Attends! Comment? Ou quand? Comment?
Parce que le quand... Ah oui, parce que... Mais vas-y, explique-moi ta pensée là-dessus, je vais t'expliquer la mienne.
Mais je peux pas... Tu sais, déjà, j'ai de la misère. Moi, je suis constamment... Je te parlais de mon obsession de la mort, mais parce que je sais qu'il y a une fin, j'ai de la misère au jour le jour à trouver un sens aux affaires que je fais. Tu sais, je fais... Bon, je... À quoi ça sert de faire ce spectacle-là? Dans quelques années, il va être oublié, puis je vais être mort. Ou, tu sais, je te parle de mon rapport à ma mère. Des fois, je suis comme... Hey, tu sais, ma mère, elle va venir voir mon show, elle va être contente, mais... En même temps que ça donne que ma mère soit fière de moi, dans 5 ans, elle va être moi. Je pense à des affaires de même, tu sais. J'ai de la misère à construire des affaires parce que je trouve que ça va s'annuler bientôt. Fait que si je sais en plus dans combien de temps, et si je sais qu'il faut que ça soit dans 2 ans, je pense que je me suiciderais.
Crime. Moi, on dirait que je le voyais comme tu sais c'est quand. Fait que peu importe ce qui va se passer avant, tu dis hey, je sais que c'est dans 22 ans. Ouais. Demain. Je fais du motocross, je sors d'un avion, je fais du parachute. En sachant, ça va être en t'étouffant. Là. À toute fois que tu manges, tu es sur le gros nerf. Tu sais,
ouais,
je sais pas.
Mais toi, on dirait qu'il n'y a rien que je fais qui. Tu sais, je ne suis pas amateur de choses extrêmes. Fait qu'il n'y a rien que je fais vraiment qui m'inquiète pour ma vie. Puis, tu sais, il y a. Vivre, tu sais, c'est quoi vivre au maximum? Parce que je sais que c'est dans 10 ans, mais je sais que. Je peux vivre 10 ans avec plein de merde, tu sais, je peux perdre ma carrière, ma mère peut avoir un cancer pendant 3 ans, mais c'est, si on, je sais qu'il me reste 10 ans, ça ne veut pas dire que ça va être 10 belles années, tu sais, ça va peut-être être je veux savoir comment, mais je veux le temps. Non, il faut que ça soit une loterie. Parfait. Hey, quand tu sais que c'est ton dernier Noël, c'est effrayant. Il faut vivre avec la. Je le sais que c'est peut-être mon dernier souper, mais je ne veux pas le savoir.
Ah ouais. Alors j'avoue. C'était plus dans l'émerveillement de ce qui se passe.
Ben, ouais, c'est dans l'espoir naïf que tu sais. Ouais.
On va regarder. Mais là, j'avoue que là, ça fait comme très drable les questions. Mais c'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie?
Perdre maman. Mort de maman.
OK. Ouais. On dirait que
j'ai. Conséquent, là. Ouais.
Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi?
Ben, j'ai longtemps dit des acouphènes. Quand j'ai eu mes acouphènes au début, j'étais tellement en détresse que je me disais, hey, quelqu'un que j'haïrais, là, sur qui j'aurais un certain pouvoir. Là, de...
ouais.
Non, ça, je ne souhaiterais pas parce que ça peut amener même la fin là, dans certains cas. Ça serait bien dramatique, là, mais je ne souhaiterais pas ça, pire ennemi.
Parfait. On va aller d'un côté plus le fun. Là. C'est quoi pour toi le bonheur parfait, Jean-Sébastien?
Le bonheur parfait. C'est bien des affaires, mais OK, le moment où je suis le plus heureux dans l'année, ça me tombe quand je finis un contrat puis que je suis sur le bord. Moi, je suis l'anticipation des affaires. Tu sais, moi, ce qui est heureux, c'est de préparer un voyage. La semaine qui précède un voyage pour moi, c'est beaucoup plus grisant que le voyage. Je suis rendu dans le voyage, je suis en train de me dire. Dans une semaine, ça va être fini, je vais être malheureux, puis je vais être déçu d'être venu. Tu sais. Fait que c'est l'anticipation. Fait que le bonheur parfait pour moi, là, c'est quand je tombe en vacances, c'est une semaine avant de partir, je prépare mon voyage. Ça, c'est mon plus beau moment dans l'année. C'est le bonheur parfait. En fait, c'est ça. Mon bonheur parfait, c'est la proximité de quelque chose qui me fait plaisir. C'est rarement quand je suis dedans.
C'est ça qui est fou. C'est comme si tu vivais à l'avance ce qui allait se passer. Fait que là, tu dis, j'ai un prochain contrat, je suis content, mais je suis content quand il est fini parce que j'anticipe la prochaine.
Je suis pas content quand la saison commence parce que je fais comme 64 émissions, je serais jamais capable. Comme là, fini, je fais comme je viens de finir ma saison, je me suis pas planté, j'en ai un qui s'en vient. J'ai pas, en principe, je serais pas heureux quand je vais le commencer, mais il existe. Ma carrière continue. L'été s'en vient. T'sais, ma saison préférée, c'est l'été, mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste que le mois de mai, parce que l'été s'en vient au mois de juin, j'ai l'impression que c'est déjà commencé, il est trop tard. C'est l'automne, puis...
Bon, mais je savais pas que t'étais débordant de positivisme comme ça. On dirait que ça m'étonne.
Pour vrai?
Ouais, je quand même... J'aime ce qui s'en vient, mais pas quand je pas le moment présent, puis pas le moment après. C'est vraiment anticipé. Ah, c'est...
Tu sais, on entend beaucoup parler du moment présent. Je suis comme, moi, j'ai pas envie de... Surtout c'est ici, le moment présent est tellement plate. Moi, c'est l'anticipation, c'est le rêve. C'est comme c'est fun de rêver de
penser. Ah, mais ça, c'est positif. Puis, l'anticipation, mettons, d'après-pandémie, tu sais, comme
ben
ça,
oui.
C'est positif.
Ouais. C'est clair, moi, je regarde des YouTube de destination, là, puis ça me fait du bien, tu sais.
Je savais pas que tu étais un grand voyageur aussi.
Ben, je suis un grand voyageur, tu sais, je fais j'essaie de faire un ou deux voyages par année, tu sais. J'essaie de faire un voyage en Europe puis une place ailleurs, tu sais. Moi, j'en ai pas fait, mais tu sais, comme là, je devais aller passer un mois, je voulais faire mon voyage anglais. J'avais comme 5-6 destinations, tu sais. Moi, j'ai commencé à voyager tard, dans la vingtaine, tu sais. On a comme un chalet familial dans le bas du fleuve. J'adore le bas du fleuve, j'étais bien. Je sentais pas cette espèce d'appel-là. Je me disais, où je vais être mieux ici? Le moment donné, je fais comme, faut que je vois autre chose. Puis là, j'ai eu comme l'appel, mon premier pari, ça a été un des plus grands. C'est ça. Je m'en remettrai jamais. Voilà.
Jean-Sébastien, une autre question, le fun. Ta plus grande épreuve, ça a été quoi?
Mes acouphènes, c'est fatigant, mais oui, c'était la plus grande épreuve.
Tout ramène aux acouphènes.
Oui, parce que dans la mesure où, tu sais, j'ai été obligé de consulter, parce que c'est une détresse psychologique. Fait que, tu sais, comme c'est la grande détresse psychologique où j'ai fait, ben, moi, j'ai juste 20 ans, je ferais pas encore 60 ans comme ça, je pourrais pas. Chaque seconde était, fait que c'est la plus grande épreuve que j'ai vécue jusqu'à maintenant, ouais.
Parfait. Là, on s'en va dans un côté très, très heureux. Ton dernier fou rire, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi?
Mon dernier fou rire, mon Dieu, attends. Ah, mon Dieu, moi, c'est extrêmement gênant. J'ai fait une blague à la soirée. Ça a l'air narcissique, mais non. En fait, c'est que j'ai fait une blague à la soirée qui était tellement mauvaise. Puis on dirait que quand je l'ai rédigée, je la trouvais bonne. Puis en la disant, je la trouvais tellement mauvaise que je l'ai ri. Puis après ça, je suis plus capable d'arrêter de rire de ma propre blague parce que je la trouvais tellement mauvaise. Je disais que je m'ennuyais de mes amis pendant le confinement. Puis que je rêvais souvent que j'étais au karaoké avec eux. Je dis, entre autres, cette nuit, j'ai rêvé qu'avec mes amis, on était en train de chanter notre classique de karaoké, la chanson « L'envie d'aimer » de Lady. Puis j'attendais que Jean-Philippe réponde ça. Puis spontanément, il a fait comme « Lady Gaga ». J'ai dit non, « Lady Commandement », la comédie musicale sur Moïse. Puis elle a dit ça, je suis comme « Mais je peux pas avoir... » Non, en fait, ce que j'ai trouvé surtout drôle, c'est de ne pas avoir vu quelqu'un aussi mauvaise parce que je trouvais que c'était assez drôle quand je l'ai tapé. Ouais. Puis là, je suis comme, non, ça se peut pas. Puis là, j'ai comme spiné là-dessus en disant, hey, ça, c'est du génie. Puis après ça, j'ai repensé. Jean-Philippe faisait une entrevue. Puis à un moment donné, j'ai fermé mon micro parce que j'avais des fous rires. L'absurdité de cette mauvaise blague-là. Voilà.
Alors, j'ai oublié de te demander tantôt, puis là, en disant, tu as parlé de tunes de karaoké puis tout ça, tu as comme dit, je faisais des spectacles, ma grand-mère descendait, ça durait 2 heures, j'avais un entracte. Ouais, puis là, tu m'as dit tous les cris, les SOS. Est-ce que tu te rappelles le closer de ton show?
Ah, mon Dieu, je pense que c'était du Céline en 33 tours, un Céline live, parce qu'on entendait la fin de son spectacle puis des applaudissements avec le standing. Moi, je sortais, ma grand-mère devait se lever, faire le standing. Je pense que c'était Over the Rainbow, parce que Céline, sur son album À la place des arts, ça s'appelait Céline à la place des arts, avant Incognito, là, encore la petite fille, puis elle avait un medley de comédie musicale, puis ça finissait avec Somewhere Over the Rainbow. Fait que je pense que ça finissait avec ça. Ouais.
Mon Dieu. C'est un très bon closer. C'est un très bien pensé. Hein?
Ouais.
Ça fait ça déjà en dedans de toi. Je ne sais pas si t'es fan. Moi, je suis c'est un secret qui est plus caché maintenant, mais je suis un fan fini de RuPaul Drag Race. Et puis, Dans RuPaul, il demande toujours au drag à la fin, qu'est-ce que vous diriez à la jeune... Fait, qu'est-ce que tu dirais au jeune Jean-Sébastien?
Je dirais... je dirais qu'il est cool. Ouais, parce qu'il pensait absolument pas qu'il était cool, puis qu'il a des goûts différents, qu'il est pas comme les autres, mais c'est hot, justement, parce qu'il y a des singularités, il y a des affaires. J'ai envie de dire que tout ce qui fait qu'il est bien différent, qui fait peut-être rire de lui un peu, mais c'est ce qui va faire que dans sa vie adulte, ben, ça va être un peu son gagne-pain, cette espèce de singularité-là, ces récits-là, c'est... ouais. Puis que c'est ça.
Mon Dieu, Mathieu Pepper a dit la même chose. Pour tes vrai? Angoisses de jeunesse vont te faire gagner ta vie plus tard.
Exactement. Que...
Hey, Jean-Sébastien, je m'attendais à ce que tu arrives puis tu dises « Je m'excuse. Je vais aller voir. »
Ah non! C'était le contrat, tu sais, longtemps. Puis même longtemps dans ma vie adulte, tu sais, je regardais des photos, je disais « Ah mon Dieu, j'étais bien insupportable. » Puis comme l'adolescent, mon Dieu, que j'avais comme pas de compassion pour le plus jeune. Je suis comme, mon Dieu, qu'on va avoir envie de le frapper, tu sais. Alors que c'est assez récent, tu sais, je sais pas, 10 ans. Je regarde des photos de moi, je suis comme, hey, j'irais me prendre dans mes bras, là. Fait comme, quand même, tu sais, t'es atypique, puis t'assumais ça quand même, puis t'es... Ah ouais, tu sais, puis c'est ce spectacle-là que je faisais avec ma grand-mère. C'était hot, là, tu sais, la construction de mon spectacle, là, Ouais. Pis c'est ça, oui, c'est ça, puis les affaires, donc, tu sais, que je raconte... la fois que je me suis acheté des bottes de pluie blanches à l'école parce que je trouvais ça beau, puis que je me suis fait niaiser. Puis c'est comme un drame dans ma vie. Puis ça, j'ai fait un numéro là-dessus à la soirée, puis tout le monde me parle de mes bottes blanches aujourd'hui. Je suis comme, le monde me trouve maintenant parce que j'ai porté des bottes blanches. Ouais. Fait que ouais, le petit gars qui pleure à cause qui a fait rire de lui pour ses bottes blanches. Je suis comme, attention, un jour, là, les gens qui vont te reconnaître dans les rues vont te parler de tes bottes blanches, puis ils vont te trouver drôle à cause de ça. Ouais, c'est ce que je lui dirais.
Mon Dieu. Hey, Jean-Sébastien, on est. Pareil, mon premier numéro d'humour, c'était sur mes souliers blancs. Il était excessivement mauvais, mais c'était quand même mon premier numéro d'humour. Je parlais de part de chaussures blanches.
Que tu avais choisi? Que tu avais choisi, toi? C'est pas...
J'ai choisi mes souliers blancs. Moi, en fait, c'est la première fois que je suis parti de Saint-Hyacinthe pour venir veiller à Montréal. Je m'étais dit, je vais être cool. Je m'étais mis des chaussures blanches. J'avais 17 ans. J'étais prête à aller au loft. Tu sais, fait que ça, ça a été... Ouais, j'ai raconté ça.
Oui, c'est ça, les bottes. En l'occurrence, c'est que j'avais besoin de bottes de pluie en caoutchouc. Puis, je suis arrivé au Woolco à l'époque. Puis, bon, évidemment, il y avait trois rangées des grises, des noires. Il y avait comme une paire de blanches. Puis, je les ai vues. Puis, comme dans un film, elles brillaient. C'est quand même, c'est ça que je veux. Et ma mère, c'est comme très. Fais tes expériences, mais j'ai quand même ta vision, bonne pédagogue. Elle fait comme, tu sais que c'est pas tout le monde, c'est plus les filles qui en portent. Si tu vas porter, mais tu sais que ça se peut qu'à l'école, il y ait des gens qui fassent des. Je fais comme, je m'en fous. Je pensais que tout le monde allait trouver ça. Évidemment, quand je suis arrivé avec bottes blanches, tout le monde rit de moi, mais pourtant, le matin, j'étais tellement fébrile parce que je me disais, ils vont faire comme, ah, c'est qui est hot, lui, il y a des bottes blanches. Alors, ça a été tout le contraire. Mais ça a repris 40 ans, tout le monde le trouve cool, c'est d'avoir eu mes bottes blanches.
Non, mais ça, fait, ouais. Mais ça fait quand même que tu te rends compte que quand tu étais jeune, tu étais quand même très fort déjà, genre mentalement.
Mais c'est ça, quand même. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a une partie de moi qui disait comme, ah, man, je suis pas comme les autres, j'aimerais donc ça, comme répondre à une espèce de moule, j'aimerais donc ça être comme. Mais en même temps, j'avais quand même des comportements, des attitudes où j'assumais plein d'affaires, puis que différentes quand même, tu sais, il y a comme ce paradoxe-là, tu sais. Fuck, c'est ouais. Des bottes blanches, mais en même temps, mon Dieu, j'aimerais ça être comme Éric Bédard qui joue au soccer, puis qui est comme tout le monde, puis que, tu sais...
Il y a des bottes noires.
Il y a des bottes noires. Avec des dessous rouges. Personne ne remarque son existence bizarre, puis comme il a l'air à se conformer au moule de ce qu'on attend des enfants, là, de la 3e avenue, là.
Hey, moi, on avait beaucoup ri de moi parce que j'avais dit à mes parents, j'aime tellement mon pyjama, je vais mettre mon haut de pyjama, mon t-shirt de haut de pyjama qui était comme un genre de flanellette avec des gardiens de but. Je le portais comme haut pour à l'école. Puis hey, je me rappelle qu'un autre petit gars a fait, c'est un pyjama, j'ai le même, tu sais, pour faire, ouais, mais moi, je le porte ici, tu sais.
Wow.
J'étais fier de le porter à l'école.
Hey, bon, ah, c'est un fan-là aussi, je lève le jeune Guillaume.
J'irais me voir, je me dirais, mais pas le bas, par exemple. Mais,
wow.
J'en sais pas plus, Ça a été qui ou quoi? Okay, non, il nous reste trois questions. Ça a été qui ou quoi ta découverte de l'année?
Ma découverte de l'année. Attends, ça de recherche, on en fait beaucoup. Tu vois, je découvrais beaucoup d'humoristes. C'est comme un an, tu sais, que je ne vais plus dans les open mic. Puis, Suzy Bouchard. Je ne sais pas si tu connais Suzy Bouchard.
Ben oui, elle écrit sur le show d'Anneli. Suzy Bouchard, elle est merveilleuse. Ouais.
Écoute, c'est drôle parce que Suzy Bouchard, c'est une recherchiste de l'émission qui a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a une fille qui s'appelle Suzy Bouchard, faites-moi confiance, elle est hot. On présente sa chronique. Puis moi, j'avais une chronique après. Fait que je l'écoutais un petit peu distraitement. Je préparais comme mes trucs s'en venaient. Puis à un moment donné, il y a comme une couple de jokes. Je fais comme, attends, mais non, ben drôle, elle. Puis j'ai trippé sur sa chronique qu'on l'a eu la semaine d'après. Puis je vais être comme, OK, non, mais j'ai envoyé un paquet de cartes. Puis là, quand j'ai ouvert mon Messenger pour y dire que j'avais trippé sur ce qu'elle faisait, je vois qu'on a une conversation, genre, il y a 10 ans ensemble. J'en ai pas parlé encore, là. Puis elle m'écrit, « Hey, merci, JS, c'est un super beau moment. Mais je sais pas de quoi elle parle. Je sais pas, étais-tu venu comme... C'était peut-être pas il y a 10 ans, 8 ans. Es-tu venu comme public à la soirée, puis on a pris un verre en... J'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a plusieurs années...
Mais elle a fait beaucoup les rendez-vous du cinéma québécois, là. Je sais pas si t'es allé à ça ou...
Oui, mais moi, j'ai animé pendant 3 ans des régala des... Ah, OK, oui. Je faisais des... Anne-Élisabeth est venue une année comme invitée. J'avais 4 personnes pour parler de leur univers cinématographique, fait que ça a dû être là. Ça règle le problème. Puis, à un moment
Excuse-moi,
donné...
Excuse-moi, j'ai détruit la magie de ce message mystérieux.
C'est ça. Puis là, on tripe dessus, puis on veut qu'elle soit comme invitée d'honneur, puis qu'on veut...
Elle est magnifique, elle est drôle, elle est punchée. Et puis même, tu sais... Là, tu sais, elle écrit son texte, puis elle est préparée, puis tout ça. Mais nous, pour avoir eu des soupers avec elle, là, cette fille-là est drôle, puis elle a un humour. On dirait, elle me fait penser, je sais pas si c'était ça l'émission, là, mais Daria, la fille, tu sais, le dessin animé, la fille avec les lunettes. Ah mon Dieu, j'ai Daria dans la tête. Un peu, tu sais, comme...
Non. Elle a comme les cheveux noirs de même, elle a tout le temps l'air bête, là.
Ouais. Elle me fait penser un peu à, tu sais, dans la soirée, tu sais pas comme, oh mon Dieu, c'est elle qui prend toute la place, mais quand qu'elle parle, elle punch, elle me fait rire. C'est comme un peu une Sébastien Dubé, mais que tu sais, t'es dans une soirée, chaque fois que tu vas parler, c'est excessivement drôle.
La France qui punch, ouais.
Exactement. Je vais lui dire que elle est ta découverte, elle va être très heureuse de ça. Et moi, à chaque émission, je demande à mon dernier invité ou ma dernière invitée de poser une question. Ouais. Au suivant. Donc, j'avais Léane Labrèche d'Or qui demande. Souvent, Jean-Sébastien, hey, d'ailleurs, je l'ai, je ne sais pas pourquoi je ne la montre pas en ce moment. Bouge pas, regarde bien ça. Hey, c'est tout moi qui concours ça, regarde bien ça. Hey, cling.
Je ne pourrais pas faire ça. Moi.
Jean-Sébastien, parce qu'elle dit souvent, vous évitez de répondre aux questions personnelles. Fait qu'elle demande, est-ce que vous avez trouvé difficile de percer sur le tard? Parce que quand on a jasé dans notre podcast, elle m'a dit, il a fait l'école de l'humour. Je ne crois pas qu'il a fait l'école de l'humour. Est-ce que tu as fait des cours de soir là-bas? As-tu?
Pas du tout. Je ne sais même pas si c'est physiquement l'école de l'humour. La question est super intéressante. Non, j'ai trouvé ça extraordinaire de percer sur le tard. Puis, la vérité, là, je ne bullshit pas, c'est que moi, je n'étais pas du tout censé faire de l'humour dans la vie. J'ai jamais voulu faire ça, pour vrai. Je ne pensais même pas que je pouvais être vraiment drôle. Je me considérais comme un peu niaiseux, avec mes amis, comme avec un humour un peu. Mais moi, je vais être comédien. J'ai étudié en théâtre à l'UQAM, mais j'ai fait un bac de 4 ans à l'UQAM dans la vingtaine. Et je voulais être comédien toute mon enfance, mon adolescence. J'allais devenir comédien, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas bon. Je ne suis pas un bon comédien. Pendant que je faisais ma formation, je me rendais compte. Je voyais les gens progresser. Je voyais comment les gens étaient bons. Je voyais comment ils avaient de l'instinct. Puis moi, j'avais pas de plaisir dans le processus parce que, tu sais, quand t'es pas bon dans quelque chose, t'as pas de fun, t'as pas envie.
Ouais.
Fait quand j'ai terminé mon bac, j'ai... Tu sais, que la dernière année, je le savais que je ferais pas ça, mais je voulais le finir pour l'avoir fini, pour me dire, au moins, je vais aller au bout de ça. Donc, quand j'ai terminé ça, pour moi, il y avait un deuil de, j'ai essayé de comédien, j'aimerais pas être comédien. Fait que je vais faire autre chose. Et là, je me disais, j'aimerais quand même continuer à rester un peu dans les médias. Je suis devenu recherchiste et j'ai adoré ça. Puis pour moi, j'allais plus travailler devant, là, parce que pour moi, la porte naturelle, c'était de devenir comédien. Je n'étais pas un comédien, j'avais pas de talent de comédien. Fait que j'ai pas exploré vraiment autre chose. On dirait que je fais comme, hey, ça a l'air tellement souffrant en avant, je ne semble pas avoir ce qu'il faut. Je vais être recherchiste, puis j'aimais ça, moi, être recherchiste. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de recherchistes qui, pour qui la recherche, c'est une salle d'attente. Ils veulent donc être en avant, ils veulent. Mais moi, pendant toute la vingtaine, puis une bonne partie de ma trentaine, j'étais plus là. J'étais plus en train de me dire, j'aimerais ça être connu, j'aimerais ça être en avant. J'étais recherché, j'aimais ça. Puis vraiment, tous les deuils étaient faits. Puis la soirée est arrivée vraiment par hasard parce qu'une réalisatrice me trouvait drôle. J'avais fait des capsules dans une émission d'après-midi. Puis j'ai fait comme, OK, c'était une émission d'été. T'sais, la soirée, ça devait être juste un épisode. Puis c'est vraiment de fil en aiguille que tout ça est arrivé. Puis ce qui est formidable, c'est que alors que j'avais complètement oublié ça, je suis rendu dans une trentaine avancée. Alors, tout ça est arrivé, mais ça me rend tellement heureux. Et là, j'ai comme l'impression de reconnecter avec le jeune Jean-Sébastien qui tripe. Mais c'est le meilleur exemple, je te parlais de votre beau programme tantôt, mais c'était ça. Ouais. J'étais dans le 42 en direct. Je capotais. On dirait que toute la vingtaine puis la trentaine a comme disparu. Comme tout ça m'a ramené, m'a collé à mon rêve de jeunesse. Puis je tripe à faire ce que je fais quand je me retrouve sur une scène, quand je suis invité, quand il y a du monde qui me parle puis qui me dit qu'ils aiment, c'est extraordinaire et je suis super content de le faire. Puis j'ai l'impression que ben, tu sais, mon humour qui est très basé sur, ben, comme ben, du monde, sur mon récit, mais tu sais, j'ai comme bien des affaires à raconter parce que ça fait longtemps que je vis, tu sais, fait que je pense que, ouais, que ça m'aide un peu. Puis il y a aussi dans le fait d'être un late bloomer, de réussir sur le tard, on dirait que j'ai moins de pression que si j'avais 22 ans. Tu sais, je fais, tu sais, si ça dure encore, c'est sûr, j'aimerais ça que ça dure très longtemps, mais tu sais, mettons que ça dure encore, je ne sais pas, 5-6 ans, tu sais, c'est pas trop demandé à la vie, mais dans cinquantaine, ça ne sera pas si pire, tu sais, si c'est le temps de. Ouais, on dirait que tu sais, si j'avais 20 ans, c'est une carrière qui lève à 20 ans, là. Il faut que tu réussisses mais longtemps.
C'est bon ce que tu disais, tu as quelque chose à dire aussi, tu as créé tes expériences, tu arrives, fait que là, tu as un background aussi. C'est justement, tu arrives à 20 ans, là, tu sors comme fin cégep, un peu université, tu n'as pas tant de choses. Moi, je me rappelle avoir une discussion avec Mehdi Boussaïdan qui fait « Man, je suis rentré à l'école de l'humour, j'ai à 18 ans, j'ai rien à dire. » Ouais, moi, je trouvais la même chose. Je commence à faire de l'humour, j'ai 29, mais j'ai fait comme deux bacs, mais moi aussi, je trouvais ça super tard.
Toute cette vingtaine-là, tu as fait autre chose. Tu t'es nourri de plein d'affaires. Puis ça, je pense que c'est ça. C'est bien le fun de... J'ai tout le temps l'affaire. Puis même d'être vieux, tu joues là-dessus, mes vieilles références, je joue là-dessus des affaires que je ne suis pas censé connaître. Puis ça fait partie du personnage aussi. Hey, tu sais, 98% des gens qui écoutent la soirée sont plus jeunes que moi, fait qu'ils sont largués sur des affaires. Puis ça fait partie d'un procédé comique, ça fait partie du personnage. Tu sais.
Fait que, ben là, justement, moi, je savais pas que tu avais passé un temps comme recherchiste, en fait, j'apprends ça. Fait, puis ouais, là, d'un recherchiste à ma prochaine invitée, qui était également recherchiste sur Le Grand Blond avec un show sur noir. Marie-Soleil Michon. En fait, je te dis ça, je t'avais demandé à toi de poser une question à Claude Crest ou Marie-Soleil. Je te laisse choisir, je reçois les deux vendredi, donc est-ce que tu connais Claude Crest?
Ah oui, je connais Claude Crest, je connais les Picbois, j'adore les Picbois. Le numéro là, du magicien là, dans la qui aime les pénis, il n'y a rien que je trouve plus drôle. Oui. J'aime beaucoup Marie-Soleil aussi. J'ai été recherchiste 3 ans pour Marie-Soleil à la Fosse aux Lions.
Mon Dieu, Seigneur! J'ai été
3 ans. Elle m'appelait son petit cow-boy parce que ma première photo de Facebook en 2007, c'était une photo de moi à 7 ans avec un chapeau de cow-boy et depuis, elle m'appelle tout le temps son petit cow-boy. Fait que, ouais, je peux te poser une... Comme tu veux! Je te laisse choisir.
C'est-tu quoi? Je savais pas que tu avais un lien de connaissance avec Marie-Soleil. Colin, je suis vraiment déchiré. Mais vu que je vais recevoir Claude avant Marie-Soleil, fait que je vais te demander de poser ta question pour le grand talent Claude Crest.
Ouais. OK, là, j'en ai juste un flash que je dis sur les pénis. Oui. C'est pas sur les pénis, c'est sur les érections. Le magicien en garderie, si on a trois passions dans la vie, c'est trois choses-là. C'est bander. Fais juste bander. C'est un des numéros qui m'a fait le plus rire récemment. Je l'ai vu dans au 20e de Zoufet, je pense, un gala animé par Sam. La question que je poserais à Chris, c'est je veux qu'il me parle d'Alice Robbie, qui est sûrement connue parce qu'il a fait les cabarets. Il a 90 ans, lui, Alice Robbie, à peu près cet âge-là. Je pense qu'elle est morte à 90. Ouais. Fait que je veux avoir des anecdotes. Comment elle était en coulisses, Alice Robbie, à l'époque des cabarets. Du bœuf qui rit, du Mocambo, de la Casanova. Je veux qu'ils me disent comment elle était à cette époque-là. Si elle entendait le Chica Chica Boom déjà à l'époque.
J'adore. Puis, hey, compte tenu que tu connais Marie-Soleil, je me dis, hey, je vais quand même demander la question. Si vraiment c'est une super question, je vais y poser également parce que j'aime ça que chaque invité se pose des questions. As-tu une question aussi pour Marie-Soleil Michon?
Oui, je vais lui demander si elle a hâte de prendre sa retraite. Parce que je pense que Marie-Soleil, ça va être une... Ça sera pas Renaud Mirois. Là. Je pense qu'elle, à un moment donné, elle va faire comme... C'est fini.
Oui.
Parce que moi, je me souviens, la première semaine que j'ai travaillé avec elle, on était allé manger au Saint-Hubert, puis on avait reçu à la Fosse-sur-Lune, je me souviens pas qui, mais mettons que c'était une Jeannette Bertrand, c'était pas elle, mais c'était comme une vieille personne passionnée qui faisait ce métier-là depuis 70 ans. Puis Marie-Soleil, elle m'avait dit, pour vrai, je sais pas là, comment elle fait pour retriper encore, elle avait dit, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, puis je suis déjà à bout. Et ça m'avait vraiment étonné. Puis Marie-Soleil est plus jeune que moi, ça fait que ma jeune, à l'époque, elle devait avoir 31 ans, tu sais, puis elle avait vraiment dit qu'à 31 ans, elle était déjà à bout de ce métier-là. Fait que je sais pas, tu sais, est-ce qu'elle est encore comme ça, c'est une boutade, mais moi, j'ai l'impression que... Quand on va avoir l'argent qu'il faut, Marie-Soleil, elle va comme disparaître à un moment donné. Ouais. Est-ce qu'elle va prendre sa retraite ou est-ce qu'elle s'imagine animer une émission? Je pense pas que Marie-Soleil va se
coucher. C'est vrai que son mode de vie, parce que Marie-Soleil, quand même, se couche à 8 heures. Fait que, c'est quelqu'un qui va se retirer.
Ah oui, tu sais, c'était une vieille personne. Elle avait le début de trentaine, tu sais, puis c'est... Là, elle déménage à Bromont, dans sa petite maison de campagne. Elle déjà, on dirait, elle a amorcé le mode de vie d'une retraitée, puis elle a plus de 45 ans, tu sais. Fait que, ouais.
Ouais, hey, t'as raison quand tu dis qu'elle a le mode de vie d'une retraitée. L'autre fois, à radio, ça me faisait rire parce que, tu sais, on plug tout le temps, mettons, hey, moi, j'ai un nouveau frigidaire, mes tags, là, pour espérer peut-être avoir le. Et elle a plugué. Le rembourreur du village qui a réparé sa chaise de cuir. C'est comme, tu vas rien recevoir de lui, mais c'est magnifique. Hey, voilà, Jean-Sébastien, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
C'était vraiment le fun,
J'ai adoré tes réponses. Puis j'espère te recroiser bientôt. Peut-être à la soirée, t'es encore jeune, peut-être dans un spectacle. Peut-être autour d'une poutine et deux hot dogs Michigan.
Il faut que... Quand la pandémie se finit, je t'invite, on va au New Canada, des écarts et beaux biens, puis on prend exactement ça avec un petit coke avec deux pailles. Tu vas capoter.
J'ai tellement hâte. Je ne prendrai pas de paille, mais je vais quand même être là. Merci Jean-Sébastien.
Hey, mais ciao! C'est vraiment le fun. Bye!
Un plaisir.